Municipale 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand journal du soir, émission spéciale. On n'est pas en studio ce soir, nous nous sommes installés en banlieue parisienne, dans les Yvelines, en direct depuis Chanteloup-les-Vignes. Pour la première de nos quatre délocalisations, ce sera chaque lundi d'ici aux élections municipales. On sera à travers la France, au plus près de ce qui touche votre quotidien, les questions, la vie de votre ville. Ce soir, c'est votre préoccupation numéro 1, selon le sondage BVA qu'Europe 1 a publié la semaine dernière. C'est la sécurité, on va en parler très concrètement ici à Chanteloup, qui a connu un regain de violence il y a 3 mois. Chanteloup, c'était Chicago il y a 25 ans, disaient certains. C'est là que Mathieu Kassovitz a tourné La Haine. Il sera avec nous tout à l'heure. Mais c'est aussi une cité qui a connu de profondes transformations. Les bâtiments qui nous entourent ont été rénovés. La ville a été transformée. Est-ce que ce fut suffisant? Jean-Louis Borloo, le père de la rénovation urbaine, sera avec nous tout à l'heure. Il vient répondre sur Europe 1. Chanteloup, symbole de ce que beaucoup de villes à travers la France vivent. On va parler sécurité, on va parler de trafic, mais aussi de vivre ensemble, de mixité, de laïcité, avec autour de la table ici des acteurs de terrain, des médiateurs, ce qu'on appelle des grands frères, des associatifs, l'ancien maire, un policier aussi nous rejoindra tout à l'heure, et puis on sera à Nantes, on sera à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, à Mulhouse, où va demain Emmanuel Macron pour parler communautarisme. On sera à travers la France ce soir, et vous venez ici nous raconter ce qui vous préoccupe au 39-21. Vous voyez, programme chargé. D'abord, on retourne à Paris avec Anissa et avec Isabelle Millet, que je salue pour le journal de 18h. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Sébastien.
En cœur.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Je veux du fond du cœur vous dire merci.
Agnès Buzyn, très émue, a quitté donc ce matin le ministère de la Santé et cédé la place à Olivier Véran, désigné tête de liste par La République En Marche pour les municipales à Paris à la suite du retrait de Benjamin Griveaux. Le début du marathon parlementaire sur la réforme des retraites, c'est une bataille de longue haleine qui commence, et sans tarder, l'opposition a d'ailleurs lancé les hostilités.
La lutte sera dure, implacable, de longue durée, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cette loi soit adoptée.
Et vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Un accord à 7 milliards. Alstom s'apprête à racheter les activités ferroviaires du Canadien Bombardier. Aux Maldives, derrière la carte postale, le spectre de la menace terroriste, au paradis des touristes, les autorités tentent de gérer comme elles le peuvent les personnes radicalisées. Un centre de réinsertion a été spécialement créé. Enquête sur place de Guillaume Bier dans ce journal. Et puis Elton John, contraint d'arrêter un concert avant la fin à cause d'une pneumonie diagnostiquée le matin même. La star bouleversée a dû quitter la scène en larmes, s'excusant auprès de ses fans. Elton John sans voix, ça nous fait bien de la peine. La bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,27% à 6086 points. Et la tendance météo, Anissa?
Avec un temps mitigé, Isabelle, hein, demain sur une grande partie du pays. En fait, le soleil sera très présent dans le sud, ça sera une belle journée. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa.
Europe 1, écoutez le monde changer.
À Sébastien Krebs.
Et nous sommes donc à Chanteloup-les-Vignes ce soir. Et pour ouvrir ce journal, nous retournons sur les lieux d'une image qui a profondément marqué. Et pas seulement ici. Hein. C'était il y a 3 mois, le 2 novembre dernier, une nuit de violence urbaine et un lieu de culture tout près d'ici, un lieu de lien social aussi qui est parti en fumée. C'était l'Arche, un chapiteau qui était occupé par une école de cirque incendiée une nuit par les jeunes du quartier sous les yeux d'habitants écœurés à l'époque. Alors on en est où aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes? C'est Justin Morin et Rémi Bostaron qui sont retournés sur les lieux.
Sur place, tout a été nettoyé. Il reste le cabanon en bois de la compagnie de cirque, juste devant la dalle en béton, avec au milieu une grande flaque d'eau. La directrice de l'association, Neuza Tomasi, ne veut plus penser à ce qu'il s'est passé ici.
Non, ça ne m'intéresse plus du tout, ni de regarder par là. On ne peut pas rester sur des cendres, il faut essayer de reconstruire différemment. Comment on sort plus fort? Ce n'est pas évident.
Un nouveau chapiteau doit être livré d'ici 1 mois. Il sera installé à côté, mais à la place de l'ancienne structure, la mairie va reconstruire une salle de spectacle. Beaucoup d'habitants évoquent ici les efforts réalisés pour changer l'image de la ville. Profondément transformée avec la rénovation urbaine depuis les années 2000, le quartier de la Noé s'est désenclavé et il a verdi.
Ils ont démoli les tours, ils ont renouvelé les immeubles, ça fait moins ghetto.
C'est plus joli. Il y a moins de dégradation, il y a moins de bagarres entre bandes. C'est mieux qu'avant, mais...
Derrière ce « mais », il y a une poche d'une vingtaine de délinquants qui résistent, selon les autorités. Certains seraient liés au trafic de drogue, localisé au pied d'un immeuble. Autour, l'éclairage public est régulièrement vandalisé, ce qui plonge les habitants dans le noir et ce qui agace Redouane, une figure bien connue du quartier, ancien médiateur.
On va encore vers les jeunes. Je dis, mais ça te rapporte quoi de faire ça? Tu nous mets plus dans la merde, dans la peur. Tu ne laisses plus les personnes âgées sortir. Les gamins, tu ne les laisses plus jouer au ballon comme ils jouaient avant. C'est le marché couvert. On n'a pas assez de personnes pour s'occuper des jeunes qui ne foutent rien. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Ce problème fait d'ailleurs partie des priorités des deux listes municipales officiellement déclarées.
Voilà, Rémi Bostaron avec Justin Morin et un reportage qui pose toutes les problématiques qui vont nous occuper tout au long de cette soirée, donc jusqu'à 20h. On sera avec des acteurs sociaux tout au long de cette soirée. On ouvre le débat ce soir sur Europe 1. D'abord, on retourne en studio. Isabelle Millet, c'est à vous pour le reste de l'actualité du jour, avec d'abord un médecin qui remplace une médecin au ministère de la Santé.
Et oui, puisqu'Agnès Buzyn a passé le relais ce matin à Olivier Véran, elle va désormais se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
Une cérémonie que vous avez suivi ce matin, teinté d'émotion.
Effectivement, les larmes n'ont pas cessé de couler sur les joues d'Agnès Buzyn. Les sanglots dans sa voix ne l'ont pas quitté non plus. Agnès Buzyn, visiblement très émue de quitter son ministère, qui a exprimé à la tribune toute sa gratitude envers ses collaborateurs.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. À tous ceux qui travaillent dans ce très beau ministère, je veux du fond du cœur vous dire merci. À chaque instant, dans les moments difficiles, j'ai pu compter sur votre très haut niveau de compétence, sur un engagement nuit et jour. Tu as de la chance, Olivier. Tu as de la chance.
Agnès Buzyn, très applaudie, qui, vous l'entendez dans son discours d'une dizaine de minutes, s'est adressée à son successeur Olivier Véran, un confrère qu'elle connaît bien, a-t-elle dit, en qui elle a une confiance absolue pour reprendre les dossiers du ministère. L'épidémie du coronavirus reste la priorité numéro un, a d'ailleurs assuré son remplaçant. La nouvelle candidate de la majorité pour Paris a ensuite très vite filé à son QG de campagne où elle a commencé à rencontrer tête de liste, équipe de campagne. Elle s'est aussi entretenue par téléphone à la mi-journée avec le dissident Cédric Villani.
Merci beaucoup Hélène Terzian et ce coup de fil avec Cédric Villani. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis ils sont vraisemblablement ceux par qui ce jeu de chaises musicales politiques est arrivé. Fin de la garde à vue pour l'activiste russe Piotr Pavlinsky et pour sa compagne, diffuseur présumé des vidéos intimes qui ont conduit Benjamin Griveaux à jeter l'éponge. Ils vont être déférés devant le parquet en vue de leur possible mise en examen demain.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h06, la suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
Ça y est Isabelle, le projet de réforme des retraites débarque à l'Assemblée nationale. L'examen du texte a débuté cet après-midi.
41 000 amendements déposés, les députés vont donc tout devoir reprendre de zéro. Autant dire que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Claudia Bertram, clairement, l'opposition veut faire traîner les choses.
Oui, les députés de l'opposition entendent utiliser tous les outils parlementaires à leur disposition. Vous l'avez dit, plus de 41 000 amendements déposés, dont plus de la moitié, 23 000 par les députés insoumis. Une obstruction assumée par Jean-Luc Mélenchon.
S'il y a un règlement intérieur, s'il y a une manière de fonctionner pour l'Assemblée, c'est que c'est légitime, non ? Bah alors on l'utilise, voilà. La lutte sera dure, implacable, de longue durée. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cette loi soit adoptée.
Juste avant l'ouverture des débats, les députés communistes ont enfilé des t-shirts avec l'inscription « référendum ». Ils espèrent déposer une motion référendaire dès aujourd'hui. Dans l'hémicycle, Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, a ouvert les discussions dans une ambiance électrique. Il vante une ambition immense face à une opposition qui le coupe à plusieurs reprises.
L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés si nécessaire, parce que nous respectons le Parlement et nous respectons les moyens de l'opposition, même lorsque ces moyens ne sont pas mis au service de la progression du débat.
Deux semaines de débat qui s'annoncent donc serrées. Face à ce calendrier jugé intenable, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a proposé tout à l'heure un temps programmé de 100 heures sur 3 semaines, ce que les insoumis et les communistes ont refusé.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Parallèlement, les opposants ont remis ça dans la rue aujourd'hui, modestement. Quant aux syndicats qui avaient promis un lundi noir sur les rails, eh bien leur appel n'a pas été entendu cette fois, très peu de perturbations. Près de 10 milliards d'euros récupérés par l'État grâce aux contrôles fiscaux l'an dernier. C'est 1 milliard de plus que l'an dernier, en partie grâce à l'intelligence artificielle. On retrouvera Maud Descamps à Bercy dans le journal de 19h pour nous détailler cette information.
Il est 18h08 sur Europe 1, la suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
L'annonce devrait être officialisée d'une minute à l'autre. Alstom rachète les activités ferroviaires du Canadien Bombardier.
Et on en parle avec vous. Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Alors, on parle de 7 milliards de dollars, mais ça vaut le coup hein, parce que l'objectif, c'est de devenir un géant du ferroviaire.
Oui, Alstom, qui fabrique notamment nos fameux TGV, veut mettre sur pied un géant du ferroviaire. Pourquoi ? Eh bien, pour tenter de résister, notamment à son grand concurrent chinois. Même si le carnet de commandes est plutôt bien rempli aujourd'hui chez Alstom, seul, l'avenir pourrait être compliqué pour notre géant français. En effet, pour rester à la pointe, il faut énormément investir. Et à deux, on est bien évidemment plus fort pour le faire. Ce qui fait dire aux équipes d'Alstom que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 3 dans ce cadre-là, puisque ça permet d'allier les dépenses pour la recherche et donc d'aller plus vite. Indispensable au moment où la mobilité est à réinventer. On veut créer un géant de la mobilité durable complète, justement un proche de l'opération. Les deux groupes sont assez complémentaires d'un point de vue géographique et on promet qu'en France, il ne devrait pas y avoir à court terme, en tout cas, d'impact sur l'emploi. On est sur un marché en croissance, assure-t-on en interne. Reste à obtenir quand même peut-être le sésame le plus dur. Le feu vert de Bruxelles, la commission avait bloqué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois, le mariage entre Alstom et Siemens. Mais cette fois dans le camp français, on veut croire que l'on a appris de cet échec pour réussir enfin à se marier.
On suivra ça en tout cas de très près. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. 4 Français, dont un adolescent de 16 ans, porté disparu après le crash en mer d'un petit avion parti de la Dominique vers la Guadeloupe. Les recherches ont permis pour l'instant simplement de retrouver un sac à dos avec le passeport de 2 des occupants. Un soldat français de la force Barkhane déployé au Sahel pour lutter contre les djihadistes a été retrouvé mort dans son campement au Burkina Faso. L'origine du décès est pour l'instant inexpliquée. Une enquête est ouverte. 99 cas de coronavirus sur le paquebot de croisière Diamond Princess qui est en quarantaine au large du Japon. Ce chiffre porte à 454 le nombre de personnes testées positives dans ce bateau de croisière. Par ailleurs, la crainte du coronavirus a conduit les organisateurs du marathon de Tokyo qui était prévu le 1er mars, a fermé la course aux amateurs. 38 000 étaient attendus. Et puis c'est une première au pays du pétrole. Feu vert à l'exploitation de la première centrale nucléaire du monde arabe dans le nord-est des Émirats arabes unis.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une édition spéciale ce soir avec Sébastien Krebs en direct de Chantoux-les-Vignes et vous Isabelle Millet.
Et dans quelques secondes, on va partir de Chantelou-les-Vignes jusqu'aux Maldives. L'envers du décor, c'est l'enfer au paradis sur les îles des Maldives. La menace terroriste pèse sur l'archipel.
Et puis les larmes d'Elton John, une pneumonie l'a empêché de finir un concert ce week-end.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
Alors Isabelle Millet, quand on pense aux Maldives, on pense aux palmiers, au sable blanc, à la mer turquoise, mais pas vraiment au terrorisme. Et pourtant, c'est la face cachée de ce coin de paradis très prisé que nous révélons. C'est l'enquête d'Europe 1 ce lundi.
Il y a quelques jours, 2 terroristes ont blessé 3 touristes au nom de l'État islamique. Sur l'archipel, 1400 personnes radicalisées sont surveillées par les services de renseignement. Les Maldives qui ont même décidé de rapatrier leurs djihadistes de Syrie en les réintégrant dans la société. Mais auparavant, ils doivent suivre un programme de déradicalisation et de réinsertion dans un centre spécifique. Guillaume Bier, pour Europe 1, s'est rendu sur place.
Voilà, c'est là, juste à côté de la prison. De hauts murs d'enceinte fraîchement peints en gris, surmontés de barbelés. C'est le futur centre de déradicalisation, à 2 pas de l'un des spots de surf les plus réputés du pays, survolé par les hydravions qui transportent les touristes. C'est ici que seront bientôt enfermés les djihadistes maldiviens rapatriés de Syrie, surveillés par de multiples caméras. Pas d'inquiétude pour Ali, 50 ans, qui a toujours vécu sur cette île.
Non, je n'ai pas peur. Puisqu'il y a la prison ici, il y a beaucoup de sécurité sur l'île, donc il n'y a pas de menace.
Un sas de réinsertion dans la société pour djihadistes et pour maldiviens radicalisés. Son futur directeur nous révèle les plans et le fonctionnement. Hommes et femmes seront séparés, aidés pendant un an par des psychologues, enseignants, travailleurs sociaux.
Le principe essentiel, c'est qu'en sortant du centre, ils aient un emploi, en fonction de leurs préférences. S'ils sont engagés dans la société, ça leur fait une occupation dans la vie. Et ainsi, d'autres personnes ne peuvent plus les influencer.
Le programme de ce centre de déradicalisation et réinsertion doit encore être validé ces prochains jours par le président maldivien. Les premiers occupants pourraient arriver ici avant l'été. Sur l'île d'Imafushi, Guillaume Biet, Europe 1.
Et cette enquête Europe 1 signée Guillaume Bié, vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site internet europe1.fr. Et puis je vous le disais dans les titres, Elton John a été contraint de quitter la scène ce week-end en Nouvelle-Zélande. Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Le chanteur qui est donc en tournée à Auckland n'a tout simplement pas réussi à aller au bout de son show.
C'est en larmes qu'Elton John a quitté la scène samedi soir au bout d'une heure et demie de concert. L'artiste souffre d'une pneumonie, ce qui l'a empêché d'aller au bout de son show malgré qu'il ait joué et chanté de tout son cœur. C'est ce qu'il a déclaré sur son compte Instagram. Elton John s'est d'abord fait ausculter par un médecin, puis il est revenu sur scène en essayant de chanter deux chansons. C'est alors là qu'il s'est excusé. « Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé », a-t-il dit devant son public en train de l'applaudir. Mais qu'on se rassure, cela ne devrait pas l'empêcher d'assurer le reste de ses dates cette semaine. Demain et jeudi, toujours à Auckland, samedi en Australie. À 72 ans, Elton John avait déclaré que cette tournée serait la dernière. Il sera de passage à Paris du 10 au 13 octobre à l'Accor Hotel Arena.
Et on souhaite un très bon rétablissement bien sûr à Elton John. Merci Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1.
Rétablissement à Elton John. Merci Isabelle Millet. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa ?
Oui, avec un temps mitigé demain, Sébastien. Avec de l'Aquitaine à l'Alsace, des Pays de la Loire, aux Ardennes, jusqu'au nord, en Bretagne, en Normandie. En gros, vous l'avez compris, sur les trois quarts nord de la France, un ciel gris avec des averses tout au long de la journée. Demain, c'est parapluie avec vous au cas où. Hein. Sur le quart sud-est des Alpes à la Côte d'Azur, sur le pourtour méditerranéen, et bien là, le ciel est dégagé et le soleil va s'imposer. Très franchement, demain, ça sera une belle journée dans le sud. Mais attention, le vent souffle, hein, le Mistral et la Tramontane jusqu'à 70 km/h. Le vent souffle également sur la Corse avec des rafales jusqu'à 80 km/h sur les caps et puis dans le nord-ouest, sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. Là aussi, le vent d'ouest souffle. Sur le massif central et les reliefs de l'est, bonne nouvelle pour les vacanciers, il neige demain à basse altitude à partir de 600 mètres. Les températures, elles sont fraîches demain matin. 1 à 9 degrés, 1 à Aurillac, 2 à Lyon, 4 au Mans, Nancy et Châteauroux, 5 pour Paris, 8 à Nice. Dans l'après-midi, c'est bien plus doux. Nous aurons 10 degrés à Lille, 12 à Lyon et Paris, 14 à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés sur la Côte d'Azur à Nice.
Europe 1.
Édition spéciale hein, sur Europe 1, émission spéciale élection municipale. Vous êtes en direct pour cette première édition, Sébastien Krebs de Chanteloup-les-Vignes.
Oui, c'est la première de nos quatre délocalisations. Ce sera chaque lundi d'ici aux élections municipales. Et on est à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, pour parler de la banlieue, pour parler de la sécurité, du vivre ensemble, du communautarisme aussi, sujet qui touche beaucoup de villes à travers la France. Ici, avant, on disait que Chanteloup, c'était Chicago en Yvelines. Ça, c'était il y a 25 ans. Et à ce moment-là, il y a un film qui a été tourné ici. C'est le film choc sur la banlieue à l'époque, La Haine.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
On en est où 25 ans après La Haine? Mathieu Kassovitz, le réalisateur, est avec nous dans quelques secondes. Est-ce que les choses ont changé? Jean-Louis Borloo sera également avec nous. C'est le père évidemment de la rénovation urbaine. Et puis tous nos invités, les acteurs locaux, les médiateurs locaux qui s'installent autour de la table ici à Chanteloup-les-Vignes jusqu'à 20h. A tout de suite.
Sécurité, laïcité, mixité, vivre ensemble, votre grand journal du soir spécial élection municipale. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Sébastien Krebs, on vous retrouve en direct de Chanteloup-les-Vignes pour cette édition jusqu'à 20h, édition spéciale consacrée aux élections municipales et vous êtes avec vos invités.
Et on remercie la ville de Chanteloup de nous accueillir ce soir. On est installé au centre sportif David Douillet pour cette émission jusqu'à 20h. Chanteloup qui a connu, on le disait tout à l'heure, on en parlait dans le journal, un regain de violence il y a 3 mois. Mais Chanteloup qui a aussi été ces dernières années un laboratoire, même depuis 20 ans, de toute la politique de rénovation urbaine. Tous les bâtiments qui nous entourent ici ont complètement changé de visage. Tout a été reconfiguré. On va en parler longuement ce soir parce que c'est quelque chose qui illustre aussi des problématiques qui se posent dans beaucoup de villes de France. J'accueille tous ceux qui vont nous accompagner ici autour de la table et je salue d'abord Pierre Cardot qui est l'ancien maire de Chanteloup-les-Vignes. Vous avez dirigé cette ville pendant 40 ans. Bonsoir Monsieur Cardot, merci d'être avec nous. Virginie Weber est avec nous également, journaliste au quotidien Le Parisien, correspondante dans les Yvelines. Driss Saïd Youssef préside l'Institut Léonard de Vinci. Bonsoir, vous êtes spécialiste de la sécurité, vous avez beaucoup travaillé sur la banlieue. Jean-Louis Borloo sera avec nous dans quelques minutes. Je salue également Saïd qui est un médiateur ici. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Vous êtes ce qu'on appelle un grand frère. Alors comment se passe le dialogue? Vous allez nous raconter votre quotidien. Et puis Djibril s'est installé également avec nous. Bonsoir. Vous avez grandi ici à Chanteloup et vous avez été figurant dans votre jeunesse dans le film qui a marqué la ville et pas seulement. La haine, d'un mot, un souvenir qui vous reste de ce tournage à l'époque où ce quartier ne ressemblait pas du tout à ça.
Oui, tout à fait.
Ça devait être une expérience assez particulière.
Très particulière.
Et c'est un film qui racontait la violence de ce quartier à l'époque. Je disais tout à l'heure, on parlait de Chicago en Yvelines. Justement, on est en ligne avec Mathieu Kassovitz qui est en direct avec nous. Bonsoir Mathieu Kassovitz.
Bonsoir.
Il y a 25 ans tout juste, vous tourniez la haine ici à Chanteloup. Qu'est-ce que vous vous êtes dit récemment quand vous avez vu que Chanteloup refaisait les gros titres de l'actualité lorsque ce chapiteau a brûlé?
Que me suis-je dit? Que c'est dommage que ça continue. Mais bon, le désordre ordonné de Chanteloup a toujours été effectivement quelque chose de très spécifique. Et Chanteloup n'est pas une ville violente du tout, mais est une ville oubliée. Et je pense que c'est le problème de Chanteloup depuis le début. Mais je suis désolé que ça aille pas mieux, malheureusement. Mais je sais aussi qu'il y a forcément du mieux et qu'il y a forcément des choses qui ont avancé et que je suis très curieux de voir comment ça a progressé.
Pourquoi à l'époque vous vouliez faire ce film ?
Pas du tout pour parler de la violence dans les quartiers, comme vous l'avez dit, mais pour parler de la violence envers de la police, envers les quartiers, et du manque de respect qu'il y avait, et du manque de communication qu'il y avait entre les autorités, entre guillemets, ou avec un grand A, les autorités avec un grand A, donc. Et les banlieues, là, les jeunes qui n'étaient plus du tout en contact. Et c'était un petit peu essayer de mettre à plat cette relation, essayer de comprendre ce qui fait que des gens puissent se haïr à ce point et tout sans se connaître.
Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Kassovitz, vous referiez le même film ?
Monsieur, j'ai 50 ans aujourd'hui, je ne traîne plus du tout en banlieue. Et je ne suis plus du tout en contact avec ce qui se passe aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous dire quel film je ferai aujourd'hui.
Vous avez vu le film Les Misérables qui traite à peu près du même sujet que le vôtre, peut-être différemment aujourd'hui, mais qui touche à ces questions-là?
Oui, bien sûr, oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Écoutez, moi ce que je trouve étonnant avec un film comme Les Misérables, et c'est pour ça que je suis fier d'avoir fait un film comme La Haine, c'est qu'il a fallu une bonne génération pour que effectivement le flambeau soit repris par des gens qui viennent de l'intérieur cette fois-ci, pas comme moi qui venais de l'extérieur, qui avait des amis de l'intérieur, mais qui venait de l'extérieur, qui donnait un point de vue avec une distance. Lui, il donne un point de vue qui est le point de vue de l'intérieur. Donc son point de vue est beaucoup plus pointu aujourd'hui et précis que le mien. Le mien, en fait, le point de vue de La Haine, c'est surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que La Haine est une comédie et que ça a été une ouverture pour plein de gens. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les banlieues à l'époque. Aujourd'hui, on connaît les banlieues, elles font partie de notre quotidien au-delà de ce qu'on appelait à l'époque les racailles. Aujourd'hui, les banlieues font partie du sport, font partie du spectacle, font partie de la politique, font partie des entreprises, donc ont complètement évolué et il a fallu une génération pour qu'on digère un petit peu ce qui nous est arrivé, nous, dans les années 90, de tout d'un coup cette découverte par les grandes villes et par les médias d'une jeunesse qui était qui a été mis en vitrine très vite avant d'être, ouais. D'être comprise. Voilà,
alors on va justement passer toute cette soirée à parler de la banlieue aujourd'hui pour voir ce qui a évidemment changé, évolué dans le bon sens, dans un moins bon sens. On va voir Djibril peut-être à un mot pour vous. Djibril qui a tourné donc dans La Haine et qui est avec nous ici à Chanteloup. Vous voulez dire quelque chose à Mathieu Kassovitz?
Oui, je n'oublie pas le film, le tournage. Ça fait déjà 25 ans aujourd'hui. J'avais 12 ans aujourd'hui, bientôt 37 ans. Et je remercie toujours d'avoir tourné dans ce film-là. Je n'oublierai jamais de ma vie, c'est des archives et c'est gravé.
Ça, elle a changé la cité aujourd'hui? C'est plus la même qu'au moment du film?
Non, ça a changé, c'est sûr. Parce qu'il y a des bâtiments qui ont été rasés, ça a reconstruit par la suite et ça évolue, quoi. Il y a de l'évolution un petit peu.
Pierre Cardo, vous dirigez cette ville au moment où Mathieu Kassovitz a tourné La Haine. Vous l'avez dirigé pendant 40 ans, donc jusqu'en 2009. Mathieu Kassovitz disait que Chanteloup a été une ville oubliée. C'est toujours une ville oubliée aujourd'hui?
Pas seulement oubliée, maltraitée dès le départ. Pas oublier que l'État a construit la cité sans permis de construire, qu'il a été condamné pour ça. Ça s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de France. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, elle a été abandonnée, effectivement, à bien des égards. Et on a laissé les élus et les habitants se débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens d'un village pour une ville de 11 000 habitants. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand Mathieu vient tourner à Chanteloup, son film, les banlieues sont en flammes. Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Saint-Denis-la-Réunion, Vaux-en-Velin ont explosé déjà. Nous, on avait commencé le bal, mais les autres ont continué. Et la question qui se posait à moi... Quand Mathieu vient pour tourner son film, il ne vient pas pour tourner la scène de Chicago. Il vient pour tourner son film. Il l'a dit, c'est une comédie.
Avec un message très, très particulier, oui, qu'il a détaillé.
Mais le pari, à mon avis, c'était justement de réussir à ce que ça soit tourné dans cette ville sans qu'il y ait le moindre problème. Parce que tous mes collègues autour avaient refusé le tournage quand ils ont vu, effectivement, le scénario. Donc, moi, ce que je trouve intéressant... Il l'a dit, il était très heureux d'avoir pu participer à ce film. C'est qu'on a donné une raison d'être à plein de gens. Les gens qui se plaignaient du manque de sécurité avant que Mathieu n'arrive, du jour au lendemain, m'ont téléphoné pour me remercier parce que la sécurité était arrivée, parce qu'ils voyaient plein de CRS. Et les CRS, vous savez qui c'était? C'était eux, qui étaient déguisés en... Enfin, pas lui, parce qu'il était trop jeune. Mais plein de jeunes qui leur foutaient la trouille régulièrement, qui étaient déguisés en CRS. Et rien que ça, déjà... Ça a changé l'ambiance.
Ça a changé l'ambiance et ensuite beaucoup de choses ont changé. Je suis obligé de vous couper une seconde, mais de toute façon, on revient dans un instant et on a toute la soirée jusqu'à 20h pour parler de Chanteloup. Je remercie infiniment Mathieu Kassovitz qui était en ligne avec nous. On se retrouve dans un instant ici à Chanteloup.
Votre grand journal du soir, édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes avec Sébastien Krebs. La suite dans un instant. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné cet après-midi le coup d'envoi devant les députés des débats sur la réforme des retraites. Dans une ambiance houleuse, 41 000 amendements, la lutte sera dure, promet Jean-Luc Mélenchon. Olivier Véran qui remplace au pied levé Agnès Buzyn, qui elle-même prend la tête de la campagne de La République En Marche à Paris. Très émue ce matin, en quittant son ministère, elle affiche sa volonté de conquérir la mairie de la capitale. Fin de la garde à vue ce soir pour l'activiste russe Piotr Pavlinsky et sa compagne. Le couple est soupçonné d'avoir diffusé les vidéos à caractère sexuel qui ont poussé Benjamin Griveaux à jeter l'éponge. Déféré au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et d'une éventuelle mise en examen demain. L'appel à la RATP a fait un flop. Les syndicats avaient promis un lundi noir. Quasiment tous les métros, RER et bus circulent ce lundi. Les chiffres alarmants de l'ONU, le conflit dans le nord-ouest de la Syrie a atteint un niveau horrifiant, dit l'organisation, et a provoqué la fuite de 900 000 personnes depuis le début de l'offensive du régime en décembre. La tendance météo avec vous, Anissa, et demain ce sera essentiellement gris.
Oui, exactement, Isabelle, c'est une journée très mitigé demain. Alors si vous nous écoutez et que vous habitez partout en France sauf sur le quart sud-est, eh bien il va falloir prendre votre parapluie avec vous parce qu'il n'y a que sur le quart sud-est, c'est-à-dire la Côte d'Azur, les Alpes du Nord, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, il n'y a là que vous aurez du soleil demain. Partout ailleurs, ce sont des averses prévues avec des températures tout de même assez agréables, 1 à 9 degrés le matin. Dans l'après-midi, nous aurons 8 à 18 degrés de Rodez jusqu'à Nice.
Merci beaucoup Anissa. Europe 1.
Édition spéciale sur Europe 1 de votre grand journal du soir, en direct de Chanteloup-les-Vignes avec Sébastien Krebs. Sébastien, vous êtes dans les Yvelines pour cette émission spéciale consacrée aux élections municipales. Au programme ce soir, la thématique de la sécurité avec vos invités. Autour de vous, Sébastien, Driss Ait Youssef, il est président de l'Institut Léonard de Vinci, expert en sécurité. L'ancien maire de Chanteloup-les-Vignes est à vos côtés, Pierre Cardo. Virginie Weber, journaliste au journal Le Parisien et correspondante dans les Yvelines. Et Saïd, médiateur à Chanteloup-les-Vignes.
Oui, Chanteloup-les-Vignes, la sécurité, la banlieue, le vivre ensemble, voilà ce qui nous occupe ce soir jusqu'à 20h. Chanteloup-les-Vignes, donc resté ces derniers mois sur une image, cette image qu'on a vue partout de ce chapiteau qui a brûlé. On en parlait dans le journal de 18h tout à l'heure. Et ce matin sur Europe 1, la fondatrice de la Compagnie des Contraires, qui est cette compagnie de cirque qui occupait ce chapiteau, disait c'est un retour au point de départ, c'est un retour à zéro en quelque sorte. Saïd, vous qui êtes au contact des jeunes dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment on renoue le dialogue après un événement comme ça, dans un quartier qui connaît, comme d'autres en ont connu, des scènes de violence?
Je vais dire que tout simplement que la vie suit son cours. Parce que c'est vrai que c'était un fait vraiment marquant, mais pour moi, pour ma part, c'est qu'un grain de sable, parce que ça a été un échec. On a beaucoup parlé de cet échec, malheureusement. Mais à travers cet échec, ou avant cet échec, il y a eu pas mal de réussites. Et on essaye de s'appuyer sur les réussites qu'il y a eu, parce que à force de parler des échecs, malheureusement, on se renferme sur une victimisation, et c'est pas comme ça qu'on sort.
Quel discours on tient? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes au lendemain d'un événement comme celui-là?
Ben, la première chose déjà, c'est d'essayer de faire le deuil d'un lieu que beaucoup de gens ont aimé, et que malheureusement, voilà, comme l'a dit Néozard, ça repart à zéro. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, Après chaque tempête, il y a un beau temps. On préfère repartir de l'avant, on préfère garder tout le côté positif. Chanteloup a beaucoup été stigmatisé sur le côté négatif. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été un endroit oublié. Mais pour ma part, c'est une grande famille. Donc
Vous avez grandi ici. Vous avez vu les choses changer, évoluer.
Après, grandir, c'est un grand mot. Mais oui, j'ai fait pas mal. Aujourd'hui, ça fait plus de 20, ça fait 20 ans que je suis à Chanteloup. Mais oui, c'est une grande famille, j'ai vu les choses évoluer, mais j'ai vu les gens toujours rester solidaires, c'est ça qui est important. La solidarité, elle est toujours restée, et ce lien, tant qu'il est là, ben, c'est le lien qui va nous permettre de toujours aller vers le haut.
Monsieur l'ancien maire, je reviens vers vous. Vous aussi, vous avez vu ce chapiteau brûler, les habitants étaient écœurés.
Oui, enfin, à part ceux qui ont...
Ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe pour que ça reparte comme ça? Quelle est l'étincelle?
Vous avez toujours des tensions, parce que vous avez une population qui est jeune, vous avez des gens qui ont l'impression d'être délaissés, un certain nombre de jeunes qui semblent, enfin, dans leur esprit, n'ont pas d'avenir.
C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, la rénovation urbaine des bâtiments, la reconfiguration de la cité, n'a pas eu d'effet?
Si, mais attendez, on parle d'une minorité qui a été très active. Nous, on vit bien à Chanteloup. Enfin, je veux dire, par là, dans la cité, comme il l'a dit, c'est une grande famille. On n'est même pas 11 000 habitants. On se connaît quasiment tous, en tout cas, si on habite depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce n'est pas parce que vous traitez le béton que vous allez changer le problème humain. Et ici, il faut quand même remarquer que par rapport à d'autres villes, si on parle des problèmes d'islamisme et autres, on est assez peu concerné par les problématiques qu'on peut voir dans d'autres communes, où il y a eu beaucoup de départs. Chez nous, il y en a eu... un au maximum. Ça veut dire que le tissu associatif résiste. Ça veut dire que l'esprit de notre communauté chanteloubaise, au-delà des autres communautés qui pourraient se constituer, il est là.
Ce dialogue que vous avez initié quand vous étiez maire, vous aviez créé les messagers à l'époque, ce qu'on appelle les médiateurs. Alors, aujourd'hui.
Je voudrais qu'on arrête de dire les grands frères, parce qu'à l'époque, on a commencé par les grands frères, parce que les contrats aidés ne concernaient que les jeunes. Mais très rapidement, on a mis des adultes. On a mis des femmes aussi dans la médiation. C'est important, la médiation.
Vous appelez ça les messagers, vous, à l'époque?
Oui, ben maintenant c'est Promoville, et puis bon, maintenant ils sont médiateurs tout simplement.
Je me tourne vers Driss Ait Youssef, spécialiste de la sécurité. Ce dialogue, il est indispensable dans ce genre de quartier, d'avoir comme ça des gens comme Saïd qui sont au contact des jeunes. Je précise que Saïd est salarié médiateur de la commune. C'est la commune qui met des médiateurs dans les quartiers.
Moi, ça me semble quand même un élément indispensable du vivre ensemble. C'est-à-dire que ce sont les médiateurs qui, au quotidien, à la fois sur toutes les problématiques d'ailleurs qui touchent à la prévention de la délinquance, vont par exemple aux abords des lycées, des collèges pour détecter les signaux faibles, les décrocheurs, ce qu'on appelle les décrocheurs, pour éviter justement à ce que des gamins sombrent dans le décrochage dont on dit que c'est l'antichambre de la délinquance et dont on pourrait dire aujourd'hui, compte tenu des menaces que nous vivons, que c'est l'antichambre de la radicalisation et pourquoi pas l'antichambre du terrorisme. Je pense aussi que les médiateurs sont aussi extrêmement utiles lorsqu'il y a des conflits de voisinage, par exemple, lorsqu'il y a des conflits entre les commerçants, les jeunes, lorsqu'il y a des conflits entre les policiers et aussi la population, ils ont une utilité. Pendant très longtemps, ils ont été utiles, même si on a constaté effectivement que sur cette politique, quelquefois des grands frères, il n'y avait pas la formation qui allait avec. Mais progressivement, ils ont su se professionnaliser et s'intégrer parfaitement bien dans le tissu municipal et associatif. Et ce qu'il faut aujourd'hui regretter, c'est que vous avez beaucoup de villes qui ont commencer à sacrifier les médiateurs pour avoir une police municipale. Et pour moi, ça a été armé. Et pour moi, ça a été peut-être le commencement de quelque chose, ou en tout cas d'un basculement du rôle du maire qui est là pour exercer, on dit, des missions de police administrative, c'est-à-dire de prévention, vers un peu plus de répression dont on sait pertinemment qu'il n'en a finalement pas les moyens.
C'est pas exactement le même métier. Virginie Weber, journaliste au Parisien, dans les Yvelines, d'un mot, toutes les villes ont les moyens d'avoir ces médiateurs, tout le monde y a eu recours progressivement dans la zone que vous couvrez, dans les Yvelines, dans les autres cités.
C'est quelque chose que l'on voit oui, également aux Mureaux. La présence des médiateurs est indispensable dans ces banlieues. Parce que, comme disait M. Cardo, on a une nouvelle génération qui arrive et il suffit de peu pour qu'une banlieue s'enflamme, en fait. Et le rôle des médiateurs prend tout son sens parce que rien n'est acquis dans ces banlieues. Et ça permet de faire le lien entre la passerelle, entre la municipalité, entre des voisins, de recréer une solidarité, de recréer des liens entre plusieurs générations et faire en sorte que dès qu'il y a des petites tensions, on puisse...
Les apaiser et les éteindre. Et l'autre aspect qui a énormément évolué ici, c'est la rénovation urbaine. On l'évoquait, on va en parler un peu plus longuement dans un instant, puisqu'on va passer un coup de fil à Jean-Louis Borloo, qui a été un acteur clé au début des années 2000 de cette rénovation urbaine des quartiers. À tout de suite.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h en édition spéciale en direct de Chanteloup-les-Vignes. Spéciale élection municipale, c'est avec Sébastien Krebs.
Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit avec Sébastien Krebs en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines pour cette émission spéciale élection municipale. Au programme ce soir, Sébastien, la thématique de la sécurité avec vos invités autour de vous. Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et expert en sécurité. L'ancien maire de Chanteloup-les-Vignes, Pierre Cardo. Virginie Weber, qui est journaliste au journal Le Parisien et correspondante dans les Yvelines. Et Saïd, médiateur à Chanteloup-les-Vignes.
Oui, la sécurité au sens très large, hein, le vivre ensemble aussi, la mixité dans ces quartiers, dans ces banlieues à travers la France. Hein, on ne parle pas seulement de Chanteloup ce soir. Et nous sommes en ligne avec Jean-Louis Borloo. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous et de participer à cette émission spéciale. Vous êtes évidemment l'ancien ministre de la Ville. Vous aviez lancé au début des années 2000 des grands projets de rénovation urbaine dont Chanteloup-les-Vignes a été l'un des laboratoires. Vous êtes venu ici. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu que quelques années plus tard, la violence, malgré tout, est toujours là. Parfois, elle revient.
D'abord, je suis revenu très souvent et je dois dire que j'ai été absolument bluffé par ce qui a été fait par les équipes municipales, les associations, les médiateurs. Chanteloup a changé de visage pour l'emploi, le collège, l'école. C'est réouvert sur le monde, tournant le dos à cette architecture enfermée sur elle-même des années 50. Mais la rénovation urbaine n'est qu'un élément. À l'époque, sous l'impulsion de Pierre Cardo, c'était les équipes de réussite éducative, les zones franches urbaines. Vous savez, il faut prendre ces quartiers comme toutes les parties du territoire qui sont en retard de république. Les départements d'outre-mer, les grands bassins industriels en crise, les zones rurales abandonnées. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous savez qu'on a 950 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont ni en formation ni en emploi. Évidemment que la plus grande densité est dans ces zones en retard de République. Alors, sur ces parties de quartier, ça a une certaine forme. À d'autres endroits, ça a d'autres formes. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il faut en permanence faire des efforts. Tout ceci a une solution. Il n'y a aucune fatalité. Je veux dire, un grand pays comme la France... destin à cette jeunesse et à ces parties de la République.
Alors vous le dites, Jean-Louis Borloo, il reste énormément de choses à faire. C'est ce que vous proposiez. Vous proposiez un plan banlieue, 50 milliards sur la table pour la rénovation urbaine pour les actions sociales. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste qu'on réécoute cette phrase qu'avait eue Emmanuel Macron en mettant de côté le plan que vous lui proposiez. C'était en mai 2018.
Ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets.
Ça ne marche plus comme ça, disait Emmanuel Macron. Vous avez compris depuis pourquoi il a mis de côté votre plan ?
Alors d'abord, est-ce que vous êtes gentil, mais je voudrais rectifier une espèce de litanie que, comme tous vos confrères, vous répétez. C'est un plan de 50 milliards. Et d'où vous avez... vous savez, c'est les gens des quartiers élitaires qui considèrent de toute façon on en fait trop. La vérité, c'est que la République en fait 4 fois moins. Le plan, c'était très simple. La commune, le département, la caisse d'allocation familiale, la caisse d'assurance vieille, tous les acteurs mettaient au moins dans ces quartiers ce qu'on mettait au titre du reste du territoire national, ni plus ni moins. Donc tout ceci est une bile visée qui tend à monter les centres-villes contre les quartiers ou les quartiers contre les centres-villes.
La vérité, est-ce que vous avez compris la stratégie d'Emmanuel Macron pour la banlieue aujourd'hui?
Je suis au Maroc et je vous ai pris bien volontiers parce que Chanteloup est une illustration. D'abord d'équipes qui se battent extraordinairement bien, d'un lieu qui a évolué. Il y a un pépin à un moment donné. Il faut continuer, il faut recommencer. Et un symbole aussi d'un peu d'abandon de la République. Je ne suis pas là pour commenter l'actualité politique et notamment celle-là. Et ma deuxième remarque, c'est que je trouve formidable qu'une grande radio aille sur le territoire national faire des débats comme cela.
Et on va aller partout en France. On va aller partout en France, Jean-Louis Borloo.
Bravo à Europe 1.
Merci beaucoup. Je vous pose quand même une toute dernière question, Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, le débat se déporte sur une autre question que la banlieue, qui touche aussi à la banlieue, mais qui n'est pas directement les plans de rénovation urbaine. C'est le communautarisme, le séparatisme, comme dit Emmanuel Macron, qui va faire un déplacement précisément sur ce sujet en banlieue de Mulhouse demain. Est-ce que c'est ça qui vous manquait peut-être à votre plan ?
Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je veux dire, on fait communauté nationale.
Je vous parle de ce que dit Emmanuel Macron et de ce qu'il vise.
Si je ne vous répondais pas directement, ce que je veux vous dire, c'est le repli. C'est quand la perspective d'avenir n'est pas clairement affirmée. C'est aussi simple que ça. Que l'ensemble de la jeunesse de ce pays, où qu'elle soit, et notamment là où il y a une concentration de retard et donc d'absence de perspective, eh bien, qu'on lui donne la main, qu'on triple l'apprentissage dans ces cas-là, qu'on triple les tuteurs et les coachs, qu'on tende la main, qu'on attire, qu'on prenne en priorité. C'est ça, lutter contre ce qu'on appelle le séparatisme. C'est faire République, mais vous ne pouvez pas faire République lorsque vous avez 5 fois plus de médecins à un endroit qu'un autre, 5 fois plus de crèches à un endroit qu'un autre, etc., etc. Voilà. Donc là où il y a le plus, où l'action publique est utile, c'est là où il y a le plus de besoin. Et je dis aux Français qui ne sont pas dans ces quartiers-là, c'est une grande partie de la jeunesse et du bouillonnement de ce pays. La richesse du pays, elle est aussi là. J'allais dire, elle est vraiment là.
Eh bien, merci beaucoup. On entend votre appel, Jean-Louis Borloo. Merci d'avoir été en direct avec nous. On retient vos mots. Faire République pour ces quartiers, et particulièrement dans ces quartiers. On revient en plateau avec nos invités pour commenter tout ce que Jean-Louis Borloo vient de nous dire dans un tout petit instant.
Édition spéciale de votre grand journal du soir, édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. C'est jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, votre grand journal du soir en édition spéciale en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Avec vous, Sébastien Krebs, pour cette émission spéciale élection municipale consacrée à la sécurité, la laïcité, le vivre ensemble et vos invités. Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et expert en sécurité. L'ancien maire de Chanteloup-les-Vignes est à vos côtés. Pierre Cardot, vous recevez Virginie Weber, journaliste au journal Le Parisien. Et Saïd, médiateur à Chanteloup-les-Vignes.
Et Jean-Louis Borloo était avec nous il y a quelques secondes en direct sur Europe 1. Pierre Cardot, il a eu des mots assez forts. Il dit, en fait, on parle du communautarisme et du séparatisme, que ce sera le sujet d'actualité demain avec le déplacement d'Emmanuel Macron. En fait, c'est des retards de République qu'il faut combler. Vous êtes d'accord avec ça?
Je pense qu'à partir du moment où une partie de la jeunesse dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers, simplement dans les quartiers, on peut faire des bandes, ce qui est moins le cas dans la ruralité, mais se sent exclu de la société. À partir du moment où vous avez l'impression que l'école, la réussite, ce n'est pas obligatoirement pour vous, que la police, quand elle vient, ce n'est pas obligatoirement pour vous protéger, etc. Enfin, il y a des tas de relations qui sont un peu faussées. À partir de là, ce sentiment de non-appartenance à la République peut se traduire par moment par une violence contre soi ou contre les autres.
Driss Aït Youssef.
Dans le prolongement, j'ai plutôt le sentiment que c'est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire que ce séparatisme, il arrive à un moment donné où, comme l'a dit très justement Jean-Louis Borloo, il y a un problème d'espoir. Et ces individus dont je vais décrire un peu à un moment donné personnalité, ne croient plus en la République. Ne croient plus en la République, en capacité de leur donner une chance, cette chance de réussir. Parce qu'il faut savoir de qui on parle ou de quoi on parle. On parle, à un moment donné, d'un problème qui est générationnel. Sur les questions de délinquance et sur les questions de radicalisation, de terrorisme, un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Ceux qui quittent notre territoire pour aller en Syrie ou en Irak, ce sont des jeunes. Ceux qui posent des difficultés dans les prisons, des individus radicalisés, ce sont des jeunes. Ceux qui tiennent les mosquées les plus radicalisées, ce sont des jeunes. On a une difficulté aujourd'hui avec une génération qu'il faut nommer. La question liée à l'immigration, elle est certes secondaire, mais ce ne sont pas ces Chibani qui ont participé à la reconstruction de notre pays dans les 30 Glorieuses qui posent aujourd'hui un problème à la République. Ce n'est pas ça le sujet. Et tant qu'on refusera de regarder la difficulté liée à une jeunesse dans notre pays qui a du mal à trouver sa place, on pourra faire tous les discours, tous les débats, tous les grands plans qu'on veut. Et en fait, je pense qu'on ne veut pas regarder la réalité en face.
Le problème, c'est quoi? C'est l'école, c'est l'éducation. Saïd, vous qui êtes sur le terrain, ici, à Chanteloup-les-Vignes, comme médiateur, il y a un problème d'espoir, comme dit
Moi, la première chose, ce serait... Ouais, je dirais l'espoir et aussi la considération. Ces jeunes ont besoin d'être considérés. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont valorisés que dans l'échec, que quand il y a des faits marquants ou malheureusement quand il y a un chapiteau qui brûle, mais quand il y a beaucoup d'événements positifs, ils ne sont pas valorisés.
Et pourtant, ici, il y avait un centre, il y a toujours probablement un centre d'insertion sociale qui a été brûlé, incendié lui aussi, je ne me trompe pas quand je dis ça.
Il avait été pris pour cible.
Voilà.
Grâce à Dieu, il a pas pris feu.
Et pourtant, c'est des institutions qui sont installées pour venir en aide à la jeunesse. C'est ça que, de l'extérieur, on peut avoir du mal à comprendre.
Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est une minorité qui s'est attaquée à ce lieu. Parce que ce lieu venait en aide à une majorité de Chanteloupéens. Justement, je connais bien la personne qui s'en occupe. C'est une personne remarquable. Mais ce lieu, à la base, est fait pour accueillir tous les jeunes. Il est au centre de la cité. Donc voilà, ceux qui l'ont pris pour cible. Après, malheureusement, je ne sais pas d'où vient ce mal-être. Mais comme je vous dis, c'est un événement isolé.
Virginie Weber, ça se vérifie dans d'autres quartiers en Ile-de-France où vous travaillez pour Le Parisien. Vous le ressentez
Ce mal-être, on le ressent.
Problème d'espoir.
On le ressent sur le terrain, que ce soit à Mantes, à Mantes-la-Jolie, au Mureau ou à Trappes. Et il n'y a qu'à voir les résultats des dernières élections européennes, hein, où des listes communautaires ont fait plus de 6% à Chanteloup, plus de 6% à Mantes, près de 6% au Mureau. Mais ce repli, et je suis d'accord avec nos interlocuteurs, c'est le reflet d'un manque de considération. Ils ne voient pas de représentativité, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la sphère publique, et après cet incendie, malheureusement, de l'Arche qui s'est déroulé dernièrement. On a entendu aussi sur le terrain, mais pourquoi dépenser autant d'argent dans un lieu culturel quand nous, on souhaiterait des emplois ? Alors, et effectivement, si on avait la solution, voilà, un euro dépensé, un emploi créé, si c'était aussi simple, je pense que les politiques auraient trouvé la solution.
Est-ce qu'on dépense bien aussi l'argent qui est mis dans les banlieues ? C'est toute la question qui va nous occuper encore jusqu'à 20h sur Europe 1. Nous sommes ce soir en direct de Chanteloup-les-Vignes pour parler de sécurité, pour parler de vivre ensemble et de mixité dans les banlieues françaises. À tout de suite.
Votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale, c'est jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs.
Municipal 2020. Édition spéciale sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Sébastien Krebs en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Sébastien, avec la suite du programme.
Oui, c'est la première de nos quatre délocalisations liées aux élections municipales. Ce soir, on parle de sécurité, mais plus largement de vivre ensemble, de mixité, de laïcité dans les quartiers. On va aller à Mulhouse dans un instant. Mulhouse, c'est là que demain, le président de la République se rend pour parler communautarisme. On sera aussi à Vaux-en-Velin et à Nantes. Et on est avec vous au 39-21 pour tous vos commentaires et vos questions, vous intervenez dans ce débat. D'abord le journal avec Isabelle Millet à 19h sur Europe 1.
Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
C'est bien sûr les problèmes de TVA qui sont les plus grosses fraudes. Et le jour où on arrivera totalement à faire la TVA à la source, on sera encore plus efficace sans doute.
Près de 10 milliards d'euros, c'est le montant des recettes issues du contrôle fiscal l'an dernier. Un bon résultat qui s'explique en partie par le recours à l'intelligence artificielle. Cédric Villani se positionne. Coup de fil aujourd'hui à Agnès Buzyn, fraîchement élue candidate. La République en marche à la mairie de Paris. Recherche solution miracle pour éviter à nos machines à laver de polluer les eaux usées. Des micro-particules de plastique contenues dans nos vêtements se retrouvent en effet dans les océans. Un miracle demain pour le PSG face à Dortmund en Ligue des Champions. On a tellement envie d'y croire. En tout cas, ce sera le retour de Neymar. La tendance météo avec vous, Anissa, et du soleil demain pour quelques chanceux en tout cas.
Oui, et c'est chanceux, Isabelle. Il se trouve dans le sud-est avec vraiment une région très ensoleillée demain. Partout ailleurs, il vous faudra votre parapluie. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
À peine investi déjà sur le terrain, les choses ne traînent donc pas pour Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, désormais candidate LREM à la mairie de Paris. Elle a pris au pied levé donc le relais de Benjamin Griveaux.
Une passation de pouvoir empreinte d'émotion ce matin au ministère avec son successeur Olivier Véran, médecin comme elle qui affiche ses priorités, le coronavirus et le mal-être hospitalier. Agnès Buzyn qui, dans la bataille des municipales, retrouvera sur son chemin Cédric Villani, qu'elle connaît bien, candidat dissident. Tous deux ont échangé par téléphone ce matin. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir.
Cédric Villani a posé ses conditions en vue d'un éventuel rapprochement.
Oui, et c'est Agnès Buzyn qui a pris son téléphone pour appeler Cédric Villani. Un premier coup politique symbolique, moins de 24 heures après sa désignation comme candidate du parti présidentiel. Comment travailler ensemble et à quelles conditions ? C'était le but de ce coup de fil. Mais à aucun moment, la question d'un retrait de Cédric Villani n'a été évoquée, précise l'entourage du mathématicien. Le camp Villani a posé ses conditions pour un éventuel accord de second tour. L'ancien marcheur réclame qu'Agnès Buzyn reprenne plusieurs propositions de son programme sur l'écologie, la démocratie, la métropole. Le point phare, c'est un plan d'investissement de 5 milliards d'euros en faveur du climat. Cédric Villani demande également l'ouverture d'un accord de second tour avec les Verts pour réussir l'alternance à Anne Hidalgo. Mais ce coup de fil, c'est aussi un coup de pression de La République En Marche sur Cédric Villani. À moins de 4 semaines du premier tour, la majorité doit être rassemblée, martèle un pilier de la Macronie.
Les précisions de Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Merci Jean-Gabriel. Quant au fraîchement nommé ministre de la Santé Olivier Véran, il était en première ligne cet après-midi à l'ouverture des débats sur la réforme des retraites dans une ambiance plutôt houleuse. L'opposition a affiché la couleur. Elle veut faire durer les débats un maximum et torpiller le projet. Plus de 41 000 amendements ont été déposés. Fin de la garde à vue pour l'activiste russe Piotr Pavlinsky et pour sa compagne soupçonnée d'avoir diffusé les vidéos à caractère sexuel qui ont poussé Benjamin Griveaux à jeter l'éponge. Ils ont tous les deux été déférés au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et d'une éventuelle mise en examen demain. Suite à cette affaire, le secrétaire d'État au numérique Cédric O souhaite rétablir la peur du gendarme sur Internet. Et maintenant, cette bonne nouvelle pour les finances de l'État. Un nouveau record pour la lutte contre la fraude fiscale annonce cet après-midi d'Edouard Philippe qui s'est rendu au ministère des Finances, où l'on vous retrouve, Maud Descamps, près de 10 milliards récupérés l'an dernier. C'est un milliard de plus que l'an dernier.
Oui, alors sur ces 10 milliards d'euros récoltés, 9 l'ont été suite à des contrôles fiscaux. C'est 16% de plus qu'en 2018. Bercy a également encaissé 530 millions d'euros d'amende payés par les fraudeurs. Et c'est sans surprise la fraude à la TVA qui reste la plus courante, hein, comme l'a rappelé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
C'est bien sûr les problèmes de TVA qui sont les plus grosses fraudes. D'ailleurs, c'est les plus gros dossiers transmis également à l'autorité judiciaire, plus de 60% de mémoire des cas. Et le jour où on arrivera totalement à faire la TVA à la source, pour prendre un mot qui nous va bien ici, on sera encore plus efficace sans doute.
Et puis, il faut également noter la hausse du nombre de contrôles déclenchés grâce au data mining. Vous savez, c'est la croisée des données informatiques qui permet de détecter éventuellement des incohérences entre, par exemple, le train de vie que vous affichez sur Facebook et votre déclaration de revenus. Eh bien, cette technique a permis d'encaisser en 2019 785 millions d'euros. C'est plus du double de la somme qui avait été récupérée l'année précédente.
Maud Descamps au ministère des Finances pour Europe 1. On vous en parlait dans le journal de 18h. Une confirmation, Alstom rachète la branche transport de Bombardier pour un montant estimé entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Objectif, créer un géant du ferroviaire. Notez que le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 7h40. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, s'entretiendra avec la vice-présidente de la Commission européenne qui, on s'en souvient, s'était opposée à la fusion entre Alstom et Siemens. Le gouvernement veut lutter contre les rejets polluants de nos équipements ménagers. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a réuni aujourd'hui les fabricants de lave-linge pour leur demander de trouver des solutions. Car Marion Gauthier, on ne le sait pas forcément, mais nos machines ne font pas que laver. Elles polluent aussi énormément avec des conséquences pour la planète.
Oui, ça paraît étonnant, mais en lançant vos machines, vous polluez, non seulement avec vos lessives, mais également avec vos vêtements. Polyester, acrylique, élastane, la plupart contiennent des fibres synthétiques et à chaque cycle de lavage, ce sont 700 000 fibres microscopiques qui partent avec les eaux usées, des particules trop petites pour être filtrées dans les usines de traitement. Reste donc à inventer un filtre assez fin, intégré au lave-linge. Et la secrétaire d'État Brune Poirson a prévenu les fabricants ce matin, en 2025, il faudra être prêt.
C'est très difficile, ça demande potentiellement des changements de comportement, des changements technologiques, mais nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Il y a déjà des solutions qui commencent à émerger, il y en a certains qui ont pensé, des filtres portables. À ce stade-là, elles restent extrêmement embryonnaires, donc l'enjeu, ça va être de les porter à l'échelle, de façon aussi à en réduire le coût et de s'assurer qu'elles soient parfaitement efficaces.
Et pour stimuler une dizaine de fabricants d'électroménagers européens présents ce matin, la ministre lance en quelque sorte un concours, un bonus écologique qui récompensera ceux qui auront trouvé avant 2025 le filtre miracle.
Les précisions de Marion Gauthier pour Europe 1. Les amateurs de foot commencent déjà à se chauffer la voix. Dortmund PSG, 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est demain et ce sera bien sûr en direct et en intégralité sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h avec a priori le retour de Neymar, comme le confirme ce soir le coach parisien Thomas Tuchel.
Et il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer demain si des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Et ça change presque tous pour nous, s'ils jouent ou non, et j'espère positif. Ça change tous pour nous, parce que si on a la qualité, on en est sur le terrain, il a la confiance, il a la qualité, il a la capacité pour faire des choses décisives, ça change tous pour nous. Ça change tous pour des coéquipiers, ça change tous pour Kylian, ça change tous pour nous. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. S'il manque, il manque. On peut pas, on n'a pas un autre joueur avec la même qualité. C'est pour ça, c'est pour moi, c'est très facile.
Et voilà, Thomas Tuchel au micro européen de Julien Froment. Et puis notez que le FC Barcelone est autorisé à recruter un joueur supplémentaire pour remplacer Ousmane Dembélé, l'attaquant français opéré du genou et absent pour plusieurs mois.
Merci Isabelle Millet, c'était votre journal. On vous retrouve à 19h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa, avec du beau temps dans le sud.
Demain. Oui, effectivement Sébastien, c'est sur le quart sud-est demain que la journée sera la plus belle. Des Alpes à la Côte d'Azur, du Languedoc à la frontière italienne, le ciel est complètement dégagé et demain et le soleil sera très présent. Attention tout de même, dans le sud, peut-être que cette impression de beau temps sera gâchée pour vous à cause du Mistral et d'Atramontane qui souffle jusqu'à 70 km/h. C'est vrai qu'on sait que le Mistral rafraîchit pas mal les sensations. Sur la Corse aussi, le vent va souffler. Sur tout le reste du pays, bien c'est un ciel gris. Sur l'Occitanie, le Massif central et le Jura, là, le soleil fera quelques apparitions au milieu d'un ciel très nuageux. Et partout ailleurs, sur toute la moitié nord, le temps est mitigé avec un ciel gris et des averses qui vont vraiment ponctuer toute votre journée. Sur les reliefs de l'Est et le Massif central, il neige à partir de 600 mètres d'altitude. Les températures demain matin, 2 à Saint-Étienne et Chambéry, 4 à Toulouse et Nancy, 5 à Paris et 7 pour Dunkerque.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Sébastien Krebs, avec vos invités pour une édition spéciale élection municipale à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines.
Chanteloup-les-Vignes, oui, en banlieue parisienne, pour parler de ce qui est votre préoccupation numéro 1 selon le sondage BVA Europe 1, c'est la sécurité et plus largement le vivre ensemble, la mixité. On est vraiment au cœur de l'actualité parce que demain Emmanuel Macron sera en banlieue, mais en banlieue de Mulhouse pour un déplacement consacré à la lutte contre le communautarisme. Mais on va y aller, tiens, à Mulhouse, dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs en édition spéciale à Chanteloup-les-Vignes, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Municipal 2020.
Votre thématique clé, les grands enjeux nationaux.
Votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. C'est avec vous Sébastien Krebs.
Oui, ce sont des acteurs de terrain qui nous accompagnent ce soir autour de la table pour parler ici à Chanteloup-les-Vignes depuis ce centre sportif, pour parler de la sécurité, de la banlieue, du vivre ensemble. Je suis avec Driss Aït Youssef qui est le président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste de la sécurité, avec Pierre Cardo qui est l'ancien maire de Chanteloup-les-Vignes, maire pendant 40 ans, ici avec Virginie Weber qui est journaliste dans les Yvelines pour le quotidien Le Parisien, avec Saïd qui est sur le terrain à Chanteloup comme médiateur. Et je salue Julien Lecam, bonsoir, qui nous rejoint. Vous êtes policier, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. On va parler de la nouvelle stratégie du gouvernement, cette stratégie dite de reconquête républicaine, être dans les quartiers, aussi pour lutter contre la radicalisation, mais pas seulement, pour lutter contre les trafics et la délinquance. Mais l'actualité nous emmène d'abord ce soir à Mulhouse, assez loin d'ici, où se rend demain soir Emmanuel Macron, demain après-midi plutôt, Emmanuel Macron, pour parler du communautarisme, de la lutte contre le communautarisme. Il sera dans le quartier de Bourdes-Villers, tout près de Mulhouse. Et je suis en ligne avec Joël Texier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la régie qui a une association d'insertion dans ce quartier de Mulhouse.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous attendez de cette visite demain quand Emmanuel Macron parle de lutte contre le séparatisme dans les quartiers? C'est quelque chose qui existe, qui trouve sa réalité dans votre quartier?
Alors du coup, ce que j'en attends, c'est qu'on continue d'abord, parce que la ville de Mulhouse est une belle ville et c'est bien qu'on en parle de manière positive, que dans ce quartier, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent pour un mieux vivre ensemble. Alors ce que je peux attendre, moi, de la visite du président, c'est une forme de simplification. Si vous voulez, à Mulhouse, la politique de la ville, État comme ville, est quelque chose qui fonctionne, mais ça a peut-être tendance à cliver. C'est-à-dire les associations en recherche de subventions peuvent avoir tendance à travailler des fois peut-être en précaré. Moi, ce que j'attends réellement, c'est que cette action-là de demain puisse permettre en fait à l'ensemble des acteurs de mieux travailler ensemble au quotidien. Les habitants, vous savez, quand on parle de communautarisme, je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'à Bourdes-Villers, il y ait plus d'idées de communautarisme que dans d'autres quartiers et de la ville, et même d'autres villes comme Strasbourg ou d'autres endroits de France. Ça a été dit tout à l'heure, en fait. Ce qui crée le communautarisme, c'est quand même le fait que les gens se renferment sur eux. Pour éviter que les gens se renferment sur eux, il faut aussi aller vers eux. Il faut pouvoir, en fait, ouvrir les gens. Et pour ouvrir les gens, en fait, il faut qu'on remette aussi un peu de lien entre les personnes. Quand quelqu'un ne parle pas le français, c'est un peu compliqué pour lui de venir s'ouvrir aux autres. Donc il faut aussi aller à la rencontre des habitants. Ça se fait à Mulhouse, hein. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Vous avez autour de votre table de Chanteloup des gens qui sont des médiateurs. Il y a des médiateurs ville à la ville de Mulhouse. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans les rues. Il y a de l'animation de rue. Tout ça concourt à ce que ça aille mieux. Maintenant, il faut le continuer. C'est-à-dire, je pense que l'action présidentielle et l'action gouvernementale doit plutôt aller dans le sens de favoriser les actions de terrain et faire du mieux travailler ensemble au service de la population.
Et donc, vous aidez, vous, association, quand vous dites qu'il y a parfois un repli qui peut être identitaire, religieux, ça se manifeste comment ?
Je suis pas certain. Moi, je le vis pas, ça. Vous voyez, je suis dans un quartier, je travaille avec des salariés qui sont en recherche de travail, qui reviennent. Je vis pas, je ne vois pas. Je dis pas que ça n'existe pas, je ne le nie pas, mais je vois pas au quotidien dans la rue, dans le quartier de Bourdes-Villers où je suis, cette forme de repli religieux. Je ne le vois pas. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Après, si on veut éviter ce repli-là et notamment cette radicalisation qui, à mon sens, concerne beaucoup. Enfin, une population minoritaire,
Il faut, encore une fois, travailler sur les valeurs de la République. Mais travailler sur les valeurs de la République, c'est donner de l'égalité à l'école, donner un peu plus de poids peut-être aux associations dans les quartiers qui travaillent avec les familles, autour de l'éducation et autour des valeurs de la République. La citoyenneté, c'est un mot, mais en fait, ça doit se traduire par des actes. Vous savez, moi, je pense une chose en tant que travailleur social, c'est que il y a deux choses qui font force pour la République, pour les gens qui arrivent dans les quartiers. C'est un, l'école et l'éducation. Deux, c'est l'accès au travail. Quand vous êtes en inclusion sociale, quand vous avez un emploi, vous êtes reconnu socialement. À partir du moment où vous êtes en dehors de tout ça, en dehors de l'école, en dehors de l'emploi, eh bien, du coup, on vous marginalise. Et très sincèrement...
Et l'éducation pour faire valoir les valeurs de la République. Merci beaucoup, Joël Texier, d'avoir été en direct avec nous depuis Mulhouse. On suivra évidemment sur Europe 1 cette visite demain et on aura l'occasion de reparler de cette politique de lutte contre le communautarisme. Je voudrais faire réagir ici à Chanteloup-les-Vignes Julien Lecam, qui est donc policier, secrétaire départemental d'Alliance Police ici dans le département des Yvelines. On parlait de l'école, de l'éducation, du social. La police aussi a son rôle à jouer dans cette lutte contre le communautarisme, la radicalisation ?
Oui, c'est, on a un rôle important, sauf qu'il faut y mettre beaucoup de moyens. Donc là, le département des Yvelines et le secteur de Conflans, Chanteloup, souffrent d'un cruel manque d'effectifs. Hein, il faut savoir que depuis quelques années, malheureusement, les effectifs sont en chute sur le département. Ça fait plus de 2 ans que nous n'avons aucune sortie d'école et de nouvelles affectations de sortie d'école sur le département. Là, on prend le cas de Chanteloup-les-Vignes. On est en train de fermer le commissariat, qui n'est plus occupé d'ailleurs depuis plusieurs années.
Et le commissariat qui est dans la cité ici, alors, à Chanteloup.
Il est vide, hein, je vous le dis tout de suite.
Il est vide.
Justement, le sujet est tabou, hein, en préfecture. Il faut savoir que l'État...
Il y a un commissariat, mais qui ne fonctionne pas.
Alors, c'est un bureau de police. Mmh. Ça fait 4 ans qu'il est vide. Voilà, il faut savoir que c'est un bâtiment qui n'est pas adapté pour recevoir des fonctionnaires de police. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, ce commissariat a été attaqué à la voiture Bélier, au cocktail Molotov. Donc, vous êtes obligé d'avoir un bâtiment très spécifique. Maintenant, ce commissariat, pour des raisons justement de sécurité, est vide depuis 4 ans. Et on sent l'État très embêté à ce sujet-là, puisque nous devions voter il y a 2 semaines sa fermeture définitive, alors que les clés ont été rendues, sauf que le sujet a été repoussé après les élections. Il faut dire que les effectifs dédiés à la sécurisation de Chanteloup-les-Vignes sont passés de 12 effectifs à moins de 4. On est entre 3 et 4 fonctionnaires qui patrouillent régulièrement sur ces secteurs de 11 000 habitants.
On va continuer de parler de la police dans quelques secondes, puisqu'il y a eu ces annonces du gouvernement, des annonces de renfort qui visiblement ne sont pas arrivées jusqu'à vous. Hein, dans la réalité, on le comprend bien, cette police de sécurité du quotidien dont on parle et cette stratégie de reconquête républicaine, est-ce que ça marche? On ira voir justement à Nantes comment ça s'est passé. Tout de suite.
Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Édition spéciale élection municipale ce soir avec votre grand journal du soir en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Sébastien Krebs avec vos invités jusqu'à 20h. Vous recevez Driss Ait Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et expert en sécurité, Pierre Cardo, ancien maire de Chanteloup-les-Vignes, et Julien Lecam du syndicat Alliance Police Nationale. Et vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21. Sébastien.
Oui, la sécurité qui devient un sujet central de ces élections municipales. On parlait à l'instant de ce commissariat qui est ici dans la cité de Chanteloup, de cette antenne du commissariat qui est vide de policiers, faute d'effectifs et de bâtiments aux normes aussi, visiblement. On va aller à Nantes, parce qu'il y a eu des annonces du gouvernement ces derniers mois, cette police de sécurité du quotidien, cette stratégie de reconquête républicaine avec 47 quartiers à travers la France qui, depuis 2018, ont reçu des effectifs supplémentaires. On va aller à Nantes, quartier de Malakoff, qui a reçu des renforts il y a un an. Charles Guyard, vous êtes sur place, vous êtes allé aujourd'hui au contact des habitants. Est-ce que ça a changé des choses ?
Eh bien, difficile à dire, hein, Sébastien. Le quartier Malakoff, d'abord, c'est un ensemble d'immeubles en bord de Loire, un peu plus de 3300 habitants. On y trouve des petits commerces. Le Bussouet passe à côté. Alors, cela paraît tranquille, mais voilà, sur fond de trafic de drogue, il n'est pas rare d'entendre des détonations claquer. Et par endroits, le bitume porte des stigmates de voitures calcinées. Une police de sécurité du quotidien devait donc s'y déployer. Devait, car pour certains habitants, ce n'est pas flagrant malgré les besoins.
Pour certains jeunes qui font des bêtises, oui, mais après, voilà.
Et vous n'avez pas vu
qu'il y avait eu un renfort de police.
Non, je ne l'ai pas vu.
J'en ai pas trop entendu parler non plus. Après, bon, c'est toujours resté un petit peu tendu. On ne peut pas sortir au jour d'aujourd'hui tranquillement sans se dire bah, j'espère que ça va bien se passer.
Il y a quand même des délinquants, il y a quand même des coups de feu. J'ai une copine, il y a quand même les dealers en bas de chez elle qui sont là constamment. Et par contre, ben, ils ne bougent pas.
Ils ne bougent pas, nous dit Juliette en parlant des policiers. Et pour cause, sur les 39 fonctionnaires arrivés effectivement à Nantes en septembre, 19 auraient d'abord remplacé des départs en retraite, le reste affecté à d'autres missions, selon le syndicat alternatif Police Nationale. Pourtant, 2019 restera comme une année noire avec une soixantaine de règlements de compte à l'arme à feu recensés dans l'agglomération. Une situation inédite, toujours d'après le syndicat, qui ne touche plus seulement les quartiers dits sensibles, mais se propage désormais à l'hypercentre de Nantes.
Voilà ce reportage de Charles Guyard depuis le quartier de Malakoff à côté de Nantes. Driss Aït-Youssef, je reviens vers vous. Cette stratégie de reconquête républicaine, mettre plus d'effectifs sur le terrain, a priori, c'est la bonne stratégie? Là, on voit qu'il n'y a pas tellement d'effets, visiblement, à Nantes, en tout cas, de ce que voient les habitants.
Je pense que pour plusieurs raisons. D'abord, s'agissant de la police de sécurité du quotidien, me semble-t-il que dans la réflexion menée à l'époque par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, c'était de donner des moyens avant de fixer des objectifs aux policiers. Il aurait fallu peut-être partir d'un constat partagé avec les organisations syndicales de policiers, de se fixer des objectifs avec les élus locaux, et en fonction des objectifs qu'on se fixe, allouer des moyens. Là, on a un peu fait le contraire. Ensuite, effectivement, moi je trouve que c'est toujours très utile de mettre des policiers en nombre dans des territoires là où on a de vraies difficultés, mais ça ne peut pas être la seule solution ou la seule réponse. Encore une fois, je le dis régulièrement, très régulièrement, le ministre de l'Intérieur, qui à lui seul considère ou pense qu'il pourra régler la question de l'insécurité ou du terrorisme en France, il a déjà perdu. En fait, il a déjà perdu. Cette question de la prévention de la délinquance ou de la lutte contre le terrorisme, elle est transversale. Elle se joue aussi sur les questions liées à la parentalité, donc la famille, sur les questions éducatives, sur les questions liées à la formation.
On y revient toujours à chaque fois.
Oui, sur tous ces sujets-là. Donc la police de sécurité du quotidien, ce sont quelquefois les mêmes effectifs qu'on renomme, on crée des brigades spécialisées et donc on leur assigne des objectifs, même si ça a quand même un petit peu évolué. On est un peu plus dans le relationnel avec les commerçants, avec la population, pour essayer de glaner de l'information. Élément indispensable pour lutter contre les trafics. Mais les trafics, si on appréhende des individus quand on ne les met pas en prison, mais quand on les met en prison, bah, ils sortent assez rapidement. On considère que la prison, bah, c'est l'ENA du grand banditisme ou l'ENA du djihadisme. Bah, il ne faut pas se... à un moment donné, il ne faut pas se plaindre si, quand ils retournent dans le quartier, ils sont encore beaucoup plus formés à des techniques, ils sont un réseau beaucoup plus important. Donc la question, elle ne peut pas être que sécuritaire.
Julien Lecam, vous qui êtes policier, syndicat Alliance Policière, un exemple très concret ici même à Chanteloup, et ce n'est pas un cas isolé, il y a plein de quartiers en France où cet exemple existe, c'est qu'il y a une zone qu'on appelle ici le Trident, où dans une émission de télévision, la maire de la ville dit qu'elle ne peut pas aller parce que c'est le repère des trafiquants, c'est le point de deal dans un hall d'immeubles. Alors, on sait très bien où sont ces points de deal, pourquoi on n'y arrive pas?
Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de zone de non-droit dans le secteur. Hein. Les policiers vont partout.
D'accord.
Hein, forcément, là, vous pointez du doigt un bâtiment. Il faut savoir que les investigations pour lever un trafic de stupéfiants, ça nécessite des mois, plusieurs mois, ça nécessite beaucoup d'effectifs. Il faut savoir que le groupe stupéfiant de l'agglomération de Conflans est composé de 8 effectifs qui doivent s'occuper de 12 communes. Il faut savoir que le trafic de stupes concerne Poissy, Triel, beaucoup d'autres communes. Hein. Tous les quartiers sont touchés par ce phénomène. Et malheureusement, voilà, vous avez cet endroit, mais ce n'est pas pour autant que mes collègues ne sont pas peut-être en train d'investiguer sur ce secteur, font des interpellations, relèvent des trafics de stupéfiants. Il faut savoir que
c'est un travail de fourmi, on comprend.
Oui, tout à fait. Vous pouvez pas...
Même quand on sait exactement où sont les points de deal et qui sont les trafiquants, puisque c'est des gens qui sont connus dans le quartier.
C'est pareil, c'est vous qui le dites. Hein. Il faut savoir que Chanteloup est aussi un quartier très fermé. Hein, vous ne pouvez pas arriver, monter une surveillance comme ça du jour au lendemain. Ce sont, je vous dis, il faut des moyens très particuliers. Mais ce secteur n'est pas délaissé.
Virginie Weber, vous qui êtes journaliste au Parisien dans la zone Yvelines, des points comme cela, il y en a beaucoup?
Des problématiques telles que celles que soulève le policier à côté de moi, effectivement, elles sont partout, elles sont dans toutes les banlieues. Aujourd'hui, moi je n'ai jamais connu la police de proximité, mais quand je vais sur le terrain, les habitants regrettent qu'elle ne soit plus là. Qu'il ne soit plus au contact de policiers, qu'il n'y ait plus de lien. Aujourd'hui, je discutais avec Pierre Cardo. Il me disait qu'il y avait une équipe de télévision qui était restée 2 mois après l'incident de l'Arche à Chanteloup. Elle a vu une patrouille circuler en 2 mois. Alors, je ne sais pas, c'est ce que me dit Pierre Cardo, mais voilà, il y a cette problématique-là. Les habitants cherchent du lien avec l'État et ça passe aussi par la police.
Driss Aït Youssef, la police visible, c'est ça qui est important ?
Oui, alors quand on parle de la police de proximité, en fait, c'est plus la même époque. C'est comme si vous disiez tout à l'heure, essayer de comparer la haine et les misérables. C'est plus les mêmes mentalités, c'est plus les mêmes menaces. C'est-à-dire, quand vous prenez le film La Haine, bah, il y avait quand même encore un peu le respect pour le bleu. On avait peur du bleu, on se sauvait en courant. Où aujourd'hui, vous regardez dans Les Misérables, c'est plus ça du tout. C'est un sujet de confrontation où tu rentres pas dans mon territoire. Il y a une appropriation du territoire, y compris par la violence, qui peut se faire. Donc du coup, on ne compare pas deux choses. Aujourd'hui, la question liée à la proximité, elle se joue, c'est vrai, dans des relations qui sont à tort tendues entre les policiers et une petite partie de la population, quelquefois les jeunes, mais parce qu'il y a aussi un passif. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la responsabilité, quand je dis de la police, parce qu'à un moment donné, il y a une dichotomie entre la volonté du ministre de l'Intérieur et celle des policiers de terrain qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, ça crée des tensions extrêmement importantes, sans oublier qu'aujourd'hui, on a des policiers qui sont de moins en moins encadrés et qui sont de moins en moins formés, avec un budget. Quand vous regardez, il y a loi de budget 2020, il y a 1800 policiers en plus, mais on vous diminue le titre 2 et le titre 5. Le titre 2 et le titre 5, c'est l'investissement et le fonctionnement, les véhicules, la formation. On est passé de 18 mois, plus 12 mois. Et puis aujourd'hui, le temps de formation d'un policier, c'est 9 mois et demi. Au moment où on demande aux policiers de manipuler des armes de force intermédiaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y a pas le compte.
Merci, merci à tous. On marque une toute petite pause. On va revenir à partir de 19h30. Tiens, quelle solution ? Comment on change tout ça ? Comment on fait évoluer les choses ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections municipales ? À tout de suite.
Votre grand journal du soir en édition spéciale élections municipales avec Sébastien Krebs. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, édition spéciale élections municipales avec vous Sébastien Krebs.
Et le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Et le début ce lundi de l'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. L'opposition a bien l'intention de donner de la voix. Le gouvernement, lui, espère toujours que cette réforme sera bouclée d'ici 2 semaines. Pas gagné du tout avec les 41 000 amendements qui ont été déposés. Agnès Buzyn a officiellement quitté le ministère de la Santé pour viser la mairie de Paris. Ce matin, elle a échangé par téléphone avec Cédric Villani qui a posé des conditions à un éventuel ralliement. Olivier Véran, qui remplace Agnès Buzyn, a lui promis de lancer dans les prochains jours une enquête nationale sur le mal-être du personnel hospitalier. L'affaire Griveaux, Piotr Pawlinski et sa compagne déférée au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et de leur éventuelle mise en garde à vue, mise en examen demain. Le constructeur ferroviaire français Alstom confirme avoir signé un protocole d'accord pour acheter 100% de Bombardier Transport, c'est la branche ferroviaire du conglomérat canadien, pour un prix compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Notez que le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 7h40. Le spécialiste français des vêtements pour enfants Orchestra Prémaman va supprimer 159 postes en France et 300 à l'étranger dans le cadre d'une réorganisation. La tendance météo à Nice, ce sera mitigé demain.
Mitigé, oui, effectivement Isabelle, un temps plutôt gris de l'Aquitaine à l'Alsace, des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, sur le nord la Bretagne, la Normandie, vous l'avez compris sur les trois quarts nord de la France, en fait c'est un ciel gris avec des averses tout au long de la journée. La seule partie de la France où il fera beau demain c'est le quart sud-est, des Alpes à la Côte d'Azur, sur tout le pourtour méditerranéen et la Corse, là c'est un ciel bleu avec le soleil qui va prendre une très belle place dans ce ciel. Attention tout de même dans le sud, Mistral et Tramontaine qui soufflent demain après-midi. Les températures, elles sont douces au meilleur de la journée. 8 degrés à Rodez, 10 à Lille, 12 à Lyon, Brive et Paris, 14 à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés sur la Côte d'Azur à Nice.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec cette édition spéciale ce soir, élections municipales. Vous êtes Sébastien Krebs avec vos invités en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines.
Oui, Chanteloup-les-Vignes en banlieue parisienne pour parler de la sécurité qui est la première préoccupation des Français dans ces élections municipales, pour parler de la banlieue, du vivre ensemble, de la mixité. Je salue les invités qui viennent tout juste de nous rejoindre pour terminer cette émission jusqu'à 20h. Bonsoir Jean-Philippe Assensi, bienvenue dans ce de ce centre sportif David Douillet, parce que ce n'est pas un studio. Vous êtes le fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport. Vous avez aussi présidé dans le passé l'association Bleu Blanc Zèbre. Je salue également Maxime Sibuet. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous faites partie du réseau Viens voir mon taf, qui est ce réseau de professionnels qui propose des stages en entreprise aux élèves de 3e qui n'ont pas forcément de piston. Driss Aït Youssef est toujours avec nous, spécialiste de la sécurité. Également Virginie Weber, qui est journaliste dans les Yvelines pour le journal Le Parisien, et Saïd, qui est médiateur à Chanteloup. Et je salue Yazid Karfi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi médiateur. Vous êtes médiateur depuis très longtemps ici à Chanteloup. On parlait à l'instant du manque de policiers et parfois du manque de policiers visibles. Est-ce que ça fait que du coup, vous, médiateur qui êtes au plus proche des jeunes sur le terrain, c'est à vous de faire ce boulot ?
Non, moi. Enfin, pour moi, il faut arrêter à chaque fois qu'il y a des problèmes de délinquance, appeler plus de policiers. Ce n'est pas plus de policiers, c'est plus de ceux qui travaillent sur la prévention, de médiateurs, d'éducateurs, d'animateurs. La police, c'est bien d'arrêter les délinquants. Mais la prévention, c'est éviter qu'ils deviennent des délinquants, c'est mieux. Donc arrêtons de mettre beaucoup d'argent dans la sécurité. Les caméras vidéosurveillance, ça coûte très cher. Le prix d'une caméra, c'est 12 000 euros. C'est le prix d'un demi-poste d'éducateur. Est-ce qu'on préfère une caméra ou un éducateur en même temps ? Donc, c'est les relations humaines qui manquent. Éviter que les jeunes deviennent des... On le voit quand ça commence à déconner à un moment donné. Si on arrive à les ressaisir à un moment donné, on peut s'en sortir. Donc, la prévention, ça passe avant.
Et ça, c'est le rôle du maire. C'est ce que peut impulser un maire. On entend souvent que les maires promettent des polices municipales et des caméras de surveillance. Ils promettent pas assez d'éducateurs, les maires en campagne aujourd'hui ?
Non, dans tous les quartiers, les jeunes, ils demandent d'avoir des lieux, des espaces pour se passer, réussir à l'école, des choses comme ça. Ça diminue, partout on diminue ces choses-là en même temps. Donc c'est là qu'il faut mettre les moyens.
Quand il y a des problèmes, il vaut mieux. Quand il y a des problèmes dans le quartier, il vaut mieux vous appeler vous qu'appeler la police si on veut le régler.
Je pense que parfois, les médiateurs, les animateurs, les éducateurs, des jeunes dans le quartier, ils ont parfois plus de résultats qu'une compagnie de CRS. Tu rappelles certaines personnes, même des mères de famille, ils peuvent te calmer des jeunes en même temps. Donc. Ou alors, il faut qu'il y ait un vrai partenariat. La police, en général, elle ne travaille pas avec les autres acteurs. À chaque fois qu'il y a des réunions avec les professionnels sur les problèmes dans le quartier, on a tout le monde, sauf la police. La police travaille souvent dans son coin tout seul et pas avec les autres acteurs. Et ce qui manque, c'est ça, c'est ce partenariat avec les autres, y compris le travail en prison à faire. Faire que les personnes qui sortent de prison ne récidivent pas. Or, on met beaucoup de moyens encore dans la sécurité et pas suffisamment dans la prévention de la récidive.
On fait de la politique, on fait trop de politique et pas assez de concret.
Mais oui, mais parce que je pense que les gens ne sont pas suffisamment sur le terrain. On le voit, nous, quand ça commence à y aller mal chez des jeunes en même temps. Donc, il faut travailler là-dessus. Quoi.
Saïd, vous voulez rajouter quelque chose ? Vous êtes médiateur, vous aussi.
Ben, en fait, je suis 100% d'accord avec le collègue. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de séparation tout à l'heure, le terme employé par le président de la République. Le fait d'employer le terme de séparation, c'est d'avouer déjà qu'il y a un fossé. Et déjà, pourquoi pas régler le problème à la source ? On sait qu'aujourd'hui, l'insertion et la réinsertion, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, on parle de rajouter plus de police, plus de moyens, mais pas pour les formations, pas pour l'emploi. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'une ville comme Chanteloup, je parle en tant qu'habitant de Chanteloup, c'est une ville qui n'est pas pareille. Aujourd'hui, on a été beaucoup stigmatisés on parlait de la haine. La haine nous a fait beaucoup de bien, mais a fait aussi beaucoup de mal. Quand les jeunes allaient chercher de l'emploi ou étaient toujours renvoyés sur le régime de la haine.
La haine, c'était la haine de la police. Elle est toujours là, la haine de la police ?
La haine de la police, j'ai envie de vous dire que c'est les médias avant tout. Parce qu'aujourd'hui,
des médias ?
Non, c'est pas la haine des médias, c'est à cause des médias. Aujourd'hui, les médias nous montrent quoi ? Moi, quand je regarde les médias, je vois la police contre les pompiers, la police contre les gilets jaunes, la police contre tout le monde. Donc aujourd'hui, cette question, ce n'est pas à une cité ou à une banlieue qu'il faut la demander. Aujourd'hui, les banlieues ont plus besoin de moyens pour s'en sortir, mais pas pour être casanier ou tout le temps être dans la confrontation. On a l'impression que tout le temps, c'est police banlieusard. Aujourd'hui, tous ces banlieusards ne demandent qu'à s'en sortir, avoir plus de moyens, plus de formation et plus d'écoute. C'est pour ça que les médiateurs, aujourd'hui, avoir des gens qui sont sur le territoire, c'est ce qui est le plus important, avoir des gens sur le territoire, pas de passage. Chaque personnage doit faire son travail, la police fait son travail, passe, arrête les délinquants. Mais nous, médiateurs ou personnages qui sont actifs dans le quartier, nous, c'est un peu plus.
Et je le redis, des médiateurs qui peuvent être à l'initiative d'une commune et d'une mairie, puisqu'ils sont salariés, en l'occurrence, de la mairie. Jean-Philippe Assensi, je me tourne vers vous. On parlait il faut donner des perspectives, c'est ce qui ressort de ce que disent beaucoup de nos invités ce soir. Ici, presque la moitié de la population a moins de 25 ans. Et je crois qu'au sein de ces moins de 25 ans, un bon quart sont au chômage, voire peut-être encore plus. Comment on redonne justement des perspectives ? Vous avez créé donc cette fondation par le sport. Oui. Le sport peut être un outil, un levier.
Le sport, déjà, je suis content d'avoir autour de la table des gens qui nous reparlent d'espoir. À Chanteloup, il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui font plein de choses. Nous, on a monté il y a maintenant 6 ans un programme d'insertion des jeunes par le sport qui cartonne dans les quartiers les plus durs de France. Avec des jeunes sans diplôme, on a 80% de CDI, 500 jeunes placés dans des grandes entreprises comme le Crédit Agricole, LCL. Ici, on a décidé de se lancer un grand défi avec tous les éducateurs sportifs de la ville parce que le sport, c'est des valeurs. Le sport, quand on est sur un terrain de sport, on apprend à travailler en groupe, on apprend à fabriquer du commun, du collectif, on apprend à se fixer des objectifs, on apprend à être joyeux. Et nous, on a décidé avec la ville, avec quelques grands éducateurs de cette commune dont on va parler tout à l'heure, de dire voilà comment on peut aller rechercher des jeunes qui ont pu connaître des difficultés, qui sont sortis du système scolaire prématurément, mais qui ont des valeurs, qui ont du talent. Et c'est ce talent qu'on va exploiter pour faire le lien avec l'entreprise. Parce qu'un des gros problèmes que l'on a dans beaucoup de ces villes, c'est que les entreprises n'y vont plus. C'est qu'on a plus ce lien entre l'entreprise et ses jeunes. Et moi, je ne tire pas la pierre aux entreprises. Je dis qu'il faut des passerelles. Et nous, l'Agence pour l'éducation par le sport, on fait ce travail de créer ces passerelles.
C'est une marche vers l'emploi, le sport ?
Bien sûr. Bien sûr que c'est une marche vers l'emploi. Je viens de vous dire, on en a placé 300 dans des grandes entreprises françaises. C'est-à-dire que vous recrutez des jeunes sur leur talent, sur leur envie, plus que sur les diplômes. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les entreprises viennent vers nous. Et nous, on crée cette chaîne de valeur qui n'est pas simple à mettre en place entre des éducateurs sportifs, des clubs, des fantastiques médiateurs qui sont là depuis des années, qui font un travail fabuleux, et des entreprises qui se disent « on va recruter des jeunes qui ont du talent ». Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche partout en France. Donc, il faut nous aider à en parler positivement. Il faut nous aider à créer cette ambiance formidable entre ces médiateurs, ces éducateurs et ces jeunes.
Vous restez avec nous, Jean-Philippe Assensi, avec tous nos invités. On continue d'en parler dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. C'est avec Sébastien Krebs jusqu'à 20h sur Europe 1.
Édition spéciale municipale sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir spécial élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines avec vous, Sébastien Krebs, et avec vos invités. Vous recevez jusqu'à 20h Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et expert en sécurité, Pierre Cardot, ancien maire de Chanteloup-les-Vignes, Jean-Philippe Assensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport, Maxime Sibuet de l'association Viens voir mon taf et Yazid Kerfi, médiateur à Chanteloup-les-Vignes.
On parlait à l'instant de cette agence pour l'éducation par le sport créé par Jean-Philippe Assensi pour tenter de faire accéder tous ces jeunes à l'emploi. Et justement, certains des jeunes qui participent à ce programme sont venus nous rejoindre ici au centre sportif David Douillet à Chanteloup-les-Vignes. Je salue Dylan, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être là pour venir raconter un peu ce que vous faites. Vous participez depuis combien de temps à ce programme d'insertion par le sport ?
Je participe à ce programme depuis à peu près 3 mois.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous avez 22 ans, je le précise, vous avez grandi ici en banlieue.
Mais en fait, ce programme, il m'apporte certaines valeurs, justement, qui peuvent me servir tant par le sport que par le travail en entreprise, comme à peu près la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, la rigueur.
Vous aviez lâché ? C'est quelque chose qui vous remet vers, dans une voie qui se dirige vers l'emploi ? Vous aviez lâché ?
J'ai lâché le parcours scolaire.
Ouais.
Oui, c'est ça, j'étais plus motivé par l'école.
Vous n'aviez plus envie ni d'aller ni de continuer les études, ni de chercher du boulot.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça vous a remis dans un chemin vers où ? C'est quoi le projet aujourd'hui ?
En fait, les coachs, ils nous motivent et ça nous donne envie de réussir.
C'est du coaching. Mohamed est juste à côté de vous. Vous avez quel âge, Mohamed ?
Bonsoir, moi j'ai 23 ans.
23 ans.
Oui.
Depuis quand vous êtes dans ce programme d'éducation par le sport ?
J'ai intégré le programme il y a peut-être 3 mois. Et voilà. 3 mois.
Depuis 3 mois. Vous êtes. C'est quoi votre projet ? C'est quoi la suite ?
Alors, mon projet, c'est peut-être de trouver un emploi dans une formation. Mais un emploi stable, pas un emploi qu'on effectue, peut-être un mois ou deux et ensuite on lâche et on cherche autre chose. Moi, j'ai envie de trouver vraiment quelque chose qui me correspond. Et voilà.
Le sport, c'est la meilleure porte d'entrée parce que. Ça parle à tout le monde ici ?
Oui, le sport. Après, nous, on est tous un petit peu sportifs, je pense.
C'est le foot ici, là, dehors, tout à l'heure.
Exactement.
Il y avait un certain nombre qui jouaient.
Et je pense que les coachs, en fait, ils nous aident à tirer le meilleur de ce qu'on a. En gros, toutes les qualités qu'on a dans le sport, à les mettre en application au niveau de l'entreprise. Et ça, on ne le sait pas forcément.
Et on construit des ponts comme ça. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Je me tourne vers Maxime Sibuet qui est du réseau Viens voir mon taf. C'est ça aussi, c'est que quand on est dans la cité, on n'a pas forcément l'idée d'aller vers l'entreprise. Ce n'est pas forcément une évidence. Et ça commence dès la troisième avec ces stages.
Ça commence dès la troisième. D'ailleurs, deux tiers des collégiens en REP ou REP+, donc en réseau d'éducation prioritaire, ont des parents qui sont inactifs ouvriers. Et c'est vrai que sans réseau, on fait des stages par défaut. Et donc, on ne va pas forcément découvrir le métier dont on rêverait de découvrir.
Oui, parce qu'en clair, en troisième, quand on fait son stage d'observation, on va souvent chez papa-maman ou chez des amis.
Voilà, en général, le réseau à ce moment-là, il est important. Et c'est vrai que si on n'a pas ce réseau-là, si on fait un stage chez l'épicier du coin, on peut vite être confronté, et trop jeune d'ailleurs, face à l'injustice sociale. Et ensuite, c'est vrai que face à l'injustice sociale, dès le plus jeune âge, on se ferme des portes, on n'a pas forcément les ambitions qu'on pourrait avoir et on ne découvre pas le métier qu'on souhaite vraiment découvrir.
Comment vous faites pour mobiliser les entreprises pour accueillir ces jeunes?
Alors, on a créé une plateforme qui s'appelle Viens voir mon taf, donc un site web qui met en relation donc, les entreprises, donc des professionnels bienveillants, des futurs tuteurs et tutrices, qui souhaitent accueillir durant une semaine des jeunes de 3e dans leur entreprise, donc dans leur institution, administration, etc. Et voilà, on essaie d'avoir un panel assez large d'offres aussi pour correspondre à chaque souhait d'orientation, parce que les souhaits de chacun sont... Enfin voilà, on peut avoir des envies très très larges. Et depuis du coup 2015, on a 3000 jeunes qui ont réalisé des stages chez nous, 3000 jeunes de l'éducation prioritaire, et qui, pour la plupart, ont découvert un métier qui leur plaît vraiment.
Ça change quoi pour eux après ?
Ça change quoi déjà ? Ça leur permet de découvrir le métier qu'ils veulent, et aussi, surtout, nous on insiste là-dessus, ça leur permet d'avoir un début de réseau. Parce qu'ils peuvent rester en relation avec leurs tuteurs et tutrices. Et certains, d'ailleurs, refont des stages avec ce même tuteur, font des formations professionnelles dans ce domaine qu'ils ont pu découvrir durant une semaine. Et du coup, avoir un début de réseau pour la suite, c'est très important pour ces jeunes.
Voilà des initiatives qu'on avait envie de mettre en avant ce soir pour essayer de donner des perspectives aux jeunes des quartiers. D'ailleurs, viens voir mon taf. Était présent à Europe 1 et on avait accueilli un certain nombre de ces jeunes récemment. On se retrouve dans quelques secondes pour continuer ce débat ici à Chanteloup-les-Vignes.
Vous écoutez Sébastien Krebs, votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale en direct de Chanteloup-les-Vignes. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale. Sébastien Krebs, vous êtes en direct de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Avec vos invités, on parle sécurité, laïcité, mixité, vivre ensemble. Et vous recevez Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et expert en sécurité. Et Jean-Philippe Assensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport.
Et on était dans plusieurs villes de France aujourd'hui pour parler de la banlieue, de la sécurité et du vivre ensemble. Je voudrais qu'on aille en banlieue de Lyon à présent, à Vaux-en-Velin. Voilà une cité qui a connu aussi des émeutes violentes dans les années 90. Ça fait longtemps. Depuis, l'habitat a complètement changé avec ses projets de rénovation urbaine. Est-ce que ça a marché ? Quelles évolutions sur le terrain ? Écoutez ce reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Octobre 90, le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin s'embrase des images d'émeutes qui font le tour de France et qui aujourd'hui encore collent à la peau de la ville. Pourtant, Vaux-en-Velin n'est aujourd'hui plus du tout la même qu'il y a 30 ans, le tout grâce à une ambitieuse politique d'urbanisation avec l'appui de la métropole de Lyon, explique la maire actuelle Hélène Geoffroy.
C'est après les émeutes, c'est la décision de construire un nouveau centre-ville. Il y a le lycée, il y a cette volonté-là de se dire comment on fait autrement, comment on travaille sur les questions de logement.
De nombreux logements de qualité, y compris sociaux, sortent donc de terre, un centre commercial et un pôle de loisirs sont créés, ainsi que deux écoles d'enseignement supérieur, école d'architecture et école nationale des travaux publics. Aujourd'hui, c'est le même axe, renouvellement urbain et enseignement supérieur, qui est utilisé pour repenser complètement le quartier sensible du Mas du Taureau, explique Hélène Geoffroy.
On discute en ce moment avec une école d'ingénieurs qui souhaite s'installer dans la métropole de Lyon et qui a jeté son dévolu sur notre territoire, et ça voudrait dire qu'on accueillerait une troisième grande école ici au Mas du Taureau.
Bientôt donc, toutes les vieilles barres d'immeubles du Mas du Taureau seront détruites, remplacés par des petits immeubles de 3 étages maximum. Une recette qui fonctionne, Vaux-en-Velin n'est aujourd'hui plus le mouton noir de l'agglo lyonnaise, confirme Karim Bejaoui, agent immobilier dans la ville.
Quand même, ça change sur la majorité de nos clients. Franchement, enfin, ils n'ont pas forcément peur de Vaux-en-Velin. On a beaucoup de jeunes couples ou même célibataires. On a des cadres, on a de tout.
Alors certes, le taux de chômage à Vaux-en-Velin est encore de 20%, mais là encore, le retournement est visiblement en cours puisqu'il a baissé de 4 points en seulement un an et demi. Vaux-en-Velin, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà pour ce reportage en banlieue lyonnaise. On revient ici à Chanteloup-les-Vignes avec tous nos invités pour conclure cette émission. Je voudrais qu'on donne la parole à La Seine, qui fait partie des médiateurs ici qui nous ont accueillis dans ce centre sportif. La Seine, juste peut-être un mot des élections municipales. Est-ce qu'on en attend quelque chose ici? Est-ce que les jeunes qui vous entourent ici attendent quelque chose? Est-ce qu'ils croient encore à la politique et à ce que promettent les élus? D'un mot très rapide.
Alors moi, déjà, je suis pas là en tant que médiateur. Je suis là en tant que coach d'insertion par le sport. Donc, c'est vrai que je suis médiateur. Mais aujourd'hui, ma position, elle est en tant que coach. Donc, on a intervenu sur les deux jeunes. Donc, moi, vous avez dit une chose importante. Vous avez dit, est-ce que le sport, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Il y a une chose qui est essentielle. Ce que ça apporte, c'est une confiance en soi. Parce que tous ces jeunes qu'on a récupérés, comme nous disait Jean-Philippe, Donc, c'était de les rendre. Est-ce que le sport, ça apportait quelque chose? Ça apporte une chose qui est essentielle, c'est la confiance en soi. Donc voilà, à travers nos ateliers, la rampe de lancement qu'on a fait, donc les jeunes, on les attire justement avec le sport. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis très bien placé. Le sport, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai eu la chance d'avoir une petite expérience dans le foot. Donc, ça m'a permis de voyager, de découvrir autre chose. Donc voilà, à travers le sport, donc on se retrouve avec des valeurs, des règles. Et je pense que le sport, donc tous les jeunes qu'on a récupérés, il y en a beaucoup qu'en fait, la chose qu'on remarque le plus, c'est qu'ils sont en total manque de confiance. Donc, ils se mettent des barrières. Donc, on est là pour enlever les barrières. Mmh. Et on sait très bien que le sport, mentalement, donc ça apporte énormément de choses.
Jean-Philippe Assensi, lever les barrières, hein, c'est ça que vous disiez aussi tout à l'heure.
On sous-estime ce que peut apporter le sport. Le sport, on a parmi les meilleurs éducateurs du monde qui amènent bon nombre de jeunes des quartiers sur le toit du monde. Donc pourquoi ne pas profiter de tout ce savoir-faire pour justement les amener vers l'emploi? Donc on a de grands éducateurs. Maintenant, on lance ce métier de coach d'insertion par le sport sur une centaine de villes en France. Et si on a un appel à donner, c'est aux entreprises de leur dire « venez, n'ayez pas peur ». Venez, on va vous amener des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui demain feront les beaux jours de vos entreprises.
Merci beaucoup Jean-Philippe Assensi d'être venu ce soir. Driss Aït Youssef, je vous laisse conclure d'un mot. Finalement, tout revient au social, au terrain, avant, quand on parle de sécurité. C'est ce qui ressort de toutes les interviews qu'on a faites ce soir.
Je suis finalement extrêmement content, heureux de ces échanges parce que ça confirme finalement ce qu'on pense tous ici autour de cette table, c'est-à-dire que la question à un moment donné du vivre ensemble, elle se traite par des initiatives autres que celles sécuritaires qui consisteraient à mettre beaucoup plus de CRS ou de policiers dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui doit être prédominant dans tout ça, c'est de considérer que cette jeunesse, eh ben, elle appartient à la République et qu'elle doit se sentir non pas française à part, mais française à part. Et ça, je pense que c'est un point de départ qui est indispensable si on veut construire une République une et indivisible. Mais pour cela, il faut qu'à la fois le gouvernement et les différentes institutions, les entreprises comprises, il faut qu'elles puissent aussi s'engager pour faire en sorte que ces territoires soient véritablement des territoires où il y a des pépites, où on vient chercher des pépites, où on ne met pas uniquement en avant lorsqu'il y a, hélas, un chapiteau qui brûle. Ça arrive, mais il y a aussi beaucoup de réussite. Et c'est cette réussite qu'il faut mettre en perspective. C'est ce qu'on appelle donner de l'espoir à cette génération qui en a besoin.
Et mettre en perspective et regarder un peu plus large, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le temps qui nous était imparti depuis 18h. Merci à tous d'y avoir participé. Merci Driss Aït Youssef d'être venu, président de l'Institut Léonard de Vinci, d'avoir été notre fil rouge tout au long de cette soirée. Je remercie bien sûr la ville de Chanteloup-les-Vignes de nous avoir accueillis ici au centre sportif David Douillet, et je salue Émilie Mazoyer qui prend la suite ce soir. Bonsoir Émilie.
Salut Sébastien, merci pour ce grand moment. Et moi ce soir, je vous propose d'accueillir sur Europe 1 le rappeur et comédien Stomy Bugsy. Il est au théâtre les jeudis, vendredis et samedi soir à Paris au théâtre du Gymnase, une pièce qu'il a coécrite autour du destin avec tellement d'injustice des tirailleurs sénégalais. Ça s'appelle Un jour j'irai à Détroit et il vient nous en parler dans Musique.
Et ben voilà, on a commencé avec Mathieu Kassovitz et La Haine, on finit avec Stomy Bugsy, on a bouclé la boucle et on est toujours dans les années 90 ce soir.
On est bien, on était jeunes, on était beaux.
Allez, je vous dis à demain 18h pour écouter Le Monde Changer.
C'était Sébastien Krebs sur Europe 1. Europe 1.